Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique.
Studio 404, présenté par LAM UA.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce numéro de Studio 404 en ce joyeux mois de mai. Nous sommes chez nos amis et partenaires du Tank qui, comme d'habitude, nous ont laissé les clés et sont partis en disant laissons ces jeunes faire ce qu'ils veulent. Donc nous avons la possession du Tank et nous avons une belle émission pour vous ce soir. Et en plus de notre émission, nous avons des belles annonces pour vous. Puisque, tel le serpent de mer, tel l'Arlésienne, nous allons enfin lancer notre petite entreprise. Et cette petite entreprise, après moult débats, encore plus débattus que les débats dans les émissions, s'appellera Qualité. Q-U-A-L-I-T-E-R. C'est le twist. Et je vois que tout le monde est en train de se dire, putain, j'ai trop du nom de ma boîte. Alors qu'elle était trop marrante. Non, notre petite entreprise s'appellera Qualité. Et que fera cette entreprise? Eh bien, écoutez, elle produira des projets chouettes. Notamment, et surtout, bien sûr, des émissions. Mais aussi, on le verra, des soirées. Et puis après, qui sait, on peut aller très loin. Qui seront les gens qui vont gérer Qualité? Eh bien, je ferai partie de l'équipe. Et les autres actionnaires et boss de la boîte sont tout autour de moi. Donc ce soir, c'est pas une émission, c'est une réunion d'actionnaires. On est déjà en train de se battre pour voir qui va faire une prise de contrôle agressive à la Bolloré. Mais en tout cas, il y a toute l'équipe qui est autour de moi. On est hyper content de lancer ça tous ensemble. Et du coup, je vais vous les présenter comme si c'était vos nouveaux employés. Et forcément, je commence par le cofondateur de Studio 404, notre producteur, notre réalisateur. C'est juste là. Donc, ce sera lui qui sera le mec avec le bras long, le matos, le cigare, qui dira oh, c'est trop cher ton émission.
Bonjour à tous. Et oui, et bien écoutez, je vais donc m'occuper, vous vous en doutez, du son. Et donc voilà, je serai le mec qui, en principe, sera derrière le son des émissions. Donc si vous trouvez que le son d'une émission est pas bien, vous n'hésiterez pas à venir nous le dire. Comme ça, je vous casserai la gueule. Je saurai qui vous êtes. Je saurai.
Surtout, ça les fera baisser ses parts dans la boîte. À côté de notre super producteur, nous avons notre CTO, parce qu'il a voulu qu'on l'appelle CTO, mais en fait, c'est l'admin réseau, quoi. C'est tout simple.
Hein. Ouais, encore c'est moins que ça.
C'est lui qui va gérer un peu tout ce qui va être technique. Donc là, le plus gros chantier, c'est le forum. On en reparlera juste après.
Ouais.
Bonjour,
ouais.
Cher CTO.
Oui, bonjour.
Alors, c'est bon, t'as instauré des process de qualité, t'as mis des trucs
redondants.
Ouais,
non, la partie docu, on la fera plus tard. Hein. Là, pour l'instant, il fallait produire vite, hein, méthode agile, c'est comment ça marche.
Qu'on dit aussi méthode à l'arrache.
Oui, tout à fait. Mais méthode agile, ça fait plus joli sur les PowerPoint. Mais en fait, oui, c'est ça, c'est tout à l'arrache. Hein. D'ailleurs, ils le verront bien quand ils arriveront sur notre forum et qui plantera lamentablement à la deuxième page.
Et je vous parlerai du forum juste après. À côté de toi, Daz, nous avons notre directeur régie commerciale 363 Guérilla Buzz avec du sens. Puisque lui, il va essayer d'aller créer des partenariats, chercher des sous-sous.
Ouais, je vais essayer de proposer des mises en place d'opérations un petit peu disruptives qui vont nous permettre de préempter en fait des territoires de communication sur lesquels on n'a pas forcément mis en place le bon shift quand il s'agit de faire le pivot en fait.
Il y aura de la granularité ou pas ?
Énormément de granularité, il y aura de la cross-fertilisation bien sûr, et surtout une évangélisation interne, moi qui est pour moi un de mes objectifs principaux. Principal. Un des objectifs principaux.
J'ai hâte que Sylvain aille vendre Qualité et qu'il nous fasse un périscope en live de ses slides et voir la gueule des prospects. À côté de toi, Sylvain, nous aurons la présidente du B2 événementiel.
Putain.
Puisqu'elle a dit, moi, les fonctions, ce que je veux, c'est faire la fête. Donc, elle va organiser tous les événements. Donc, ça va commencer avec la soirée dont on va vous parler juste après. C'est Mélissa.
Salut, alors je vais donc fact-checker ta présentation en disant que quand j'ai pris la parole, j'ai dit que je voulais faire la communication et donc ça implique nécessairement les soirées qu'on aime beaucoup, vous le savez.
Elle veut juste faire des soirées en fait.
C'est ça, on va faire de très belles soirées chez Qualité. parce que ce sont des soirées de qualité.
Ah oui, alors ça, vous allez en entendre parler, des jeux de mots de qualité. Hein.
Vous en avez déjà marre, je pense, à l'heure qu'il est. Mais voilà, et on en parlera partout, on parlera de tous les beaux projets de qualité partout sur Internet.
Très bien, très bien. Et à côté de la déconne, il y a Fibre, parce que vous avez tous vos beaux projets, vous montez des trucs, mais lui, il fait l'argent, il connaît la vérité, c'est l'expert comptable de la boîte.
Alors, je fais moins l'argent que Sylvain, c'est-à-dire je vais surtout faire en sorte qu'on le dépense pas.
Tu sauras quand Sylvain viendra à côté de la merde.
Alors déjà, cash, je vous annonce qu'on est actuellement en déficit, puisqu'on vient de créer une boîte, donc il va nous falloir de l'argent. Mais ouais, je vais m'occuper de la compta. Voilà, de la saisie comptable notamment, la compta, l'expert comptabilité, établissement de documents, juridique, tout ça, signer, ne regardez pas, écoutez que ma voix, voilà.
On est bien.
C'est le grand argentier de Westeros.
Exactement, c'est la banque de fer même.
Ouais. C'est la banque de fer.
Et donc je rejoindrai l'équipe pour m'occuper de l'éditorial et harceler tous les gens avec qui nous travaillerons, parce qu'on va en parler aussi, comme j'harcèle nos chroniqueurs depuis maintenant 3 ans. Que va faire Qualité donc? Comme je vous le disais, on va avoir plusieurs projets. Le premier projet, c'était de faire grandir au-delà de Studio 404. On s'est dit, est-ce qu'on fait grossir l'émission ou est-ce qu'à un moment, on crée carrément une boîte qui va créer d'autres projets? Et on s'est dit, on va créer une boîte qui va créer d'autres projets et qui s'appellera Qualité. Et on va donc, normalement, on a envie de créer d'autres émissions sur d'autres thématiques, avec peut-être d'autres systèmes, avec des gens de l'équipe de 404, mais aussi avec des nouveaux talents. Parce que la France a des incroyables talents, hein. Et donc on va recruter dans les prochaines semaines et voir comment on va pouvoir monter d'autres émissions. En tout cas, on est très très excités par ça. Pour centraliser tout ça, nous allons avoir un forum qui est disponible et qui est en ligne aujourd'hui, n'est-ce pas, Daz?
Oui, tout à fait, je transpire. Ouais, il est disponible.
Sur une URL qui est une adresse IP.
Oui, alors il y a des petits problèmes d'alias, mais bon, rien de bien grave.
Quand le serveur marche.
Oui, voilà, pour l'instant le serveur est un peu sous-motorisé, hein, donc allez-y mollo.
Alors comme vous en doutez, on essaie d'acheter le nom de domaine qualité.com, et même qualité, QUALITER.com, est vendu plusieurs milliers de dollars par un mec qui...
Par un mec du Massachusetts qui m'a harcelé pendant 2 semaines en baissant les prix de $200 à chaque fois, mais on était toujours à $3200 à la fin, donc c'était très cher.
Donc on a pris le nom de domaine de qualité.com qui nous permet de créer
de
une source
de mots, voilà.
des sous-domaines très
sur voilà. Les sous-domaines rigolos, donc
une source infinie de lol, et donc le forum, l'URL du forum,
c'est bien évidemment forum.dequalité.com.
Bien sûr, nous allons vous créer et nous allons vous entretenir un forum de qualité.
.com.
Donc on se retrouvera là-bas. Ça c'est pour le forum. Donc on vous invite bien sûr à y aller juste après l'émission, à nous rejoindre. On espère qu'on pourra créer des belles choses et même des choses très laides dessus. C'est le but d'un forum. Et notre deuxième projet immédiat, c'est une soirée de qualité.
De qualité.
Est-ce qu'on va faire soirée de qualité.com? On verra.
Ouais, en tout cas, ce sera un Google Agenda.
On peut tout faire.
Il y aura des events Facebook et tout. Ça va être magnifique.
Ouais. C'est une soirée de qualité qui va ressusciter les soirées 404 qui étaient très populaires, mais on n'était pas organisé pour les faire et tout. Donc là, on est vraiment organisé. Ça se passera, Mélissa et Fibre, vous avez travaillé dessus du coup. Donc.
Ça se passera au Piol.
Oui.
Dans je sais plus quel arrondissement, mais
Belleville.
Dans
le
nord-est. Je sais jamais si c'est entre le 11e, le 20e, enfin, c'est genre c'est à la 20e, limite.
Lespiol.com.
Non, c'est de l'autre côté du boulevard, du coup, je sais jamais. Enfin, bref.
Bon, mais, hipster, le nord-est.
C'est vers Couronne, tout ça, Ménilmontant, Belleville.
Venez en fixie.
Vous êtes bien, quoi.
Il y a un baby-foot.
Vous pouvez descendre à Parmentier.
Ne venez pas en fixie, il y a une énorme côte. Vous allez vous faire mal plus.
Non, en tout cas, ce sera jeudi 1er juin.
Donc, mercredi 1er juin.
Mercredi 1er juin.
Notez bien, mercredi 1er juin.
Mercredi 1er juin, à partir de quoi? 19h30.
On sera là le plus tôt possible, hein, on est chaud.
On aura plein de surprises pour vous, on vous prépare des animations, comme quand tu fais ton anniversaire au McDonald's. Tu pourras rencontrer Ronald. Et on pourra vous parler plus en détail de qualité, de nos objectifs, de ce qu'on veut faire, de plein de choses comme le financement, hein, Fibre, par exemple, de la boîte.
Voilà.
Est-ce que Sylvain fera un
venez avec des cartes de visite et éventuellement des projets, pourquoi pas?
Ah, putain. C'est pas une soirée networking, c'est une
mais
soirée.
Mais si, ça va être soirée networking.
Essaye pas de rendre mon truc.
Si vous voulez faire du networking, Fibre sera là. Si vous voulez boire, Mélissa sera là. Si vous voulez boire, Sylvain sera là.
Aussi.
Si vous voulez boire en parlant de bonne bouffe, Ghislain sera là. Et si vous voulez boire en parlant de malbouffe, Daz sera là.
Tout à fait.
En tout cas, voilà. Le rendez-vous, c'est aujourd'hui sur forumdequalité.com et le mercredi 1er juin sur au Piol,
les Piol.
On vous donnera en tout cas tous les détails sur Facebook et sur notre forum. Je crois que les présentations sont faites maintenant. On est très content de vous annoncer la boîte parce que ça veut dire qu'on ne peut plus reculer. Et maintenant, retour à la routine. C'est parti pour l'émission.
FAQ.
Et une première FAQ qui tombe bien. C'est pas truqué. On a demandé à nos auditeurs de poser leurs questions. Tanguy Perraudeau, aka Tang_ Perodo sur Twitter, on en parlera dans ta chronique, Mélissa, de l'art du pseudo, nous pose cette question. Cher Studio 404, quel est le top level domaine le plus trendy quand vous achetez un nom de domaine? Genre le .io, le .co, le .it, c'est quoi le truc le plus stylé?
Moi j'ai une réponse.
C'est quoi le métro couronne du nom de domaine?
J'ai une réponse, c'est le... Bon. Alors il me semble que c'est le .au, ouais. Parce que figurez-vous que c'est une toute petite île dans le Pacifique, et tous les noms de domaine sont gratos.
Non, c'est TK.
Ah oui, c'est les .tk, c'est les Taokore Island,
Taokore. Tonga, non? Ou un truc comme ça?
Je sais plus, Taokore Island, un truc comme ça. Tous les noms de domaine sont gratuits.
Ouais.
En échange, ils te foutent de la pub sur ton site.
Ouais.
Et en fait, je crois que ça génère 80% du PIB chez eux.
Ouais.
Mais des pubs sales ou pas?
Ouais, n'importe quoi. N'importe quoi.
Et
du coup, c'est eux qui ont le plus de sites. Enfin, il y a plus de sites en .tk dans le monde que d'autres pays, quoi.
C'est fou, ça.
Donc voilà, c'est le truc marrant. La petite anecdote.
Pas mal, pas mal. Déjà, le storytelling, Sylvain, immédiatement. Alors, ça dit beaucoup. Fibre.
Il y a un petit revival années 90 qui arrive, là.
Ouais.
Donc, je dirais que le point cool est pas mal.
J'avoue.
Le point cool. Sylvain.
J'avoue, j'aurais pu le dire aussi.
Le point cool, c'est
malheureusement
pris,
super ouais. Point cool, c'est déjà pris. Giga point cool, c'est pris. Donc malheureusement, voilà, on peut pas trop s'amuser, mais voilà, un point cool, ça peut être fun.
Pas mal. Ouais, un côté genre années 90 rétro.
Ouais, Fido Dido, tu vois.
Ouais, grave. Daz, mais ça, est-ce qu'il y a un petit point qui vous aimez bien? Vous n'êtes pas dans les trucs classiques, genre il y a eu beaucoup de startups pour .co, c'était un peu le EO des noms de domaine à un moment.
Non, mais un bon petit .com, ça fait son job, quoi.
Ouais, toi, Mélissa.
Franchement, la coolitude, c'est le mainstream.
Bah, moi, j'ai
Mélissa
quand même,
mainstream, maman. Ok.
J'ai quand même un peu cherché pour faire des jeux de mots avec qualité.
Le point .er, du coup.
Le point .er.
Il est très compliqué à voir.
L'Érythrée, c'est la merde. Hein. Il faut aller en Somalie faire la demande soi-même.
C'était
un peu compliqué.
Jamais tu reviens, quoi.
Voilà, non, c'était un peu. Chaud. Ouais, un bon point .com, en fait, je me dis, j'ai aussi un petit penchant pour les .co, point quelque chose, toi. .co, .uk, .com, .br.
Ah, c'est galère, ça, non?
Ouais, mais j'aime bien, je sais pas.
Les .co, .cn et...
.co, .jp, tu vois, je trouve ça stylé, je sais pas.
C'est galère, ça, non? Ouais, ok, d'accord, non, mais chacun son truc. Mais on vous a dit, Daz est très très mal bouffe. Allez, on commence tout de suite avec la première chronique, ce sera Fibre qui ouvre le bal et on va parler de Periscope.
Sujet numéro 1.
Quand je déploie Periscope pour émerger dans la vie des autres.
On aurait voulu faire un petit reaction gif.
Ouais.
Quand je déploie Periscope.
Oh, excellent.
Ce sera le premier GIF custom du forum, promis.
Bien.
Allez, Periscope.
Alors, on a beaucoup parlé de Periscope, on va dire Peri, comme ceux qui l'utilisent, avec la nuit debout. Periscope est une appli qui vous permet de streamer de la vidéo et avoir en retour des petits cœurs et des commentaires. Alors, dans son concept, Periscope, ça donne le vertige. Comme dans les écrans de transition de GTA V ou de Google Maps, vous zoomez sur un point de la planète, vous rentrez dans l'intimité de la vie d'un Russe ou d'un Japonais, puis vous dézoomez.
Ouais.
Vous rezoomez, vous êtes tombé sur Renaison, un petit bled dans la Loire, chez @jordandel42. Parlons-en de Jordan.
Allez, Jordan.
Mon utilisation habituelle relève du trolling. Moi, j'ai besoin de me déstresser, alors je me connecte à un péri d'une personne dans le coin le plus mauvais de France, par exemple Renaison. Je suis face à Jordan qui n'a rien à dire et s'enclenche le dialogue suivant. Moi, je lui dis, est-ce qu'il y a un kebab près de chez toi? Ouais. Il est bon? Ouais. Il a quoi comme sauce? Ben, normal, quoi. Il a quoi comme pain? Bon, au bout d'un moment, le mec s'énerve et puis il vire du Jupéry. Mais moi, je me suis bien amusé. Ouais, mais ça peut durer très longtemps. Hein. Voilà, loisir de riche snob parisien. Parce qu'avec le recul, j'ai un peu honte. Oui, j'ai honte.
Je vous rappelle que le mec il se prend pour un riche snob parisien, alors que c'est un putain de provincial et ça fait 3 ans qu'il essaie de nous expliquer qu'il est parisien.
Faire croire ça.
Rive gauche.
Il ne manque quelqu'un.
J'ai honte. Oui, car pour toute cette chronique, j'ai dû plonger dans la réalité de Péry et je me suis retrouvé dans la réalité tout court.
Oh oh.
Periscope, c'est un peu une pyramide. Donc tout en haut, il y a Nuit Debout, ses 80 000 viewers, sa dimension militante et noble, le péri qui fait rêver les médias. Comme le dit très justement Sylvain, on ne peut pas altérer les flux du direct. Donc en montrant ce CRS qui tabasse un manifestant, les images ont peu de chances d'être des montages. Donc c'est très utile pour le militantisme. Tout en bas de la pyramide, il y a ce que j'appelle la dimension du vide. La majorité des gens est silencieuse, n'a rien à dire et rien à faire. On dirait un happening d'art contemporain. Les mecs s'installent, ils fument leur clope, matent la télé, conduisent leur voiture et ils allument Péri. Ils ont 4 viewers, ils n'interagissent pas avec. Est-ce qu'ils veulent se sentir moins seuls? Ont-ils même compris qu'ils étaient filmés? Cette question restera sans réponse.
On demandera à Serge Aurier.
Et au milieu, il y a ceci.
Alors les voyeurs... Hein, le voyeuriste...
Il y a les modèles meufs qui arrivent bientôt là. Colvé et tout ça pour montrer vos seins, les filles.
Ça, c'est des nanas qui twerkent.
On va être 200 gremlins. vient canaliser 200 gremlins.
Bon, tout
ça, c'est...
Ça c'est une baston en prison.
Carrément. C'est pas.
Donc ça, c'était l'extrait d'une compilation de Perry de OKLM.com. Merci Booba. Donc dans ce milieu de pyramide, le ventre mou là, on plonge dans l'image réelle, mais pas la réalité sucrée colorée de Snap avec ses filtres, ses emojis. On rentre dans le côté obscur de la réalité, celui de la misère.
Oh, putain. Wow.
Je vous rappelle que c'est lui l'argentier de la boîte, hein. Le grand argentier.
Si Snap est un peu le croisement de Secret Story et des Marseillais, Perry c'est l'émission Striptease croisée avec les émissions de M6 qui sont là pour vous dire que la France a peur et que la délinquance est partout. Plus je regardais Perry, plus je me disais, bon sang, je suis en train de voir l'adaptation de En Real TV des Misérables. Ce type qui mange son kebab en prison, c'est Valjean. Ce fils qui filme son père, mais histoire véridique, hein. Son père tatoué, complètement bourré, qui gueule, mais moi, petit con, je peux casser la table en deux avec ma teub, c'est les Thénardier. Cette fille qui veut pas twerker pour son mec, qui la brusque et qui monte quand même ses seins parce qu'il lui met la pression, c'est Cosette. Toute cette taloche, ces bagarres, cette violence pour déconner, c'est la misère. Et Nuit Debout, les CRS qui tabassent les jeunes, c'est Gavroche. Alors oui, plus les choses changent, plus elles restent les mêmes, Snake. Mais aujourd'hui, pour s'apitoyer et s'effrayer des drames humains, pas la peine d'attendre la plume de Victor Hugo. Elle est sur Perry après 22 heures. Et malheureusement, contrairement à Victor Hugo, on ne peut pas dire que tout ça, c'est peut-être une invention.
Ah, très bien, très bien. Il n'y a pas de public, mais on t'applaudit en tout
cas. Chronique.
Mais c'est très misérabiliste. Et là, tu parles des misérables, mais on est vraiment dedans. Parce que tu nous as donné envie de nous faire un peu mal d'aller sur Periscope,
non,
quand même.
Mais c'est
là.
N'importe quoi, en vrai. Parce
quoi
que bon.
Ah, il dit ça.
Le journalisme. Mais...
T'as de tout, en vrai. T'as pas juste ça.
Eh ben, va sur Péri.
Par exemple, parce que ça a commencé à...
Moi, je te parle du ventre mou, hein. Je te parle pas des silencieux et de Nuit Debout. Je te parle des mecs
même,
au milieu.
Même dans le ventre mou, tu dois avoir des trucs vraiment géniaux de mecs qui font trois vues, comme les trucs que Sylvain regarde, où c'est hyper pointu. Et en fait, c'est pas le ventre mou, c'est pas la misère, c'est des trucs géniaux. Mais juste,
moi, je suis plutôt d'accord avec Fibre. La seule fois que je me suis baladé, je suis vraiment tombé sur des gens.
Ouais.
Qui était dans la semi-conscience de streamer et la semi-interaction.
Moi, je suis allé en Alaska dans une famille, là. C'était trop bien, quoi. Après, il se passe pas grand-chose, mais tu voyages tellement que c'est ouf, quoi.
Oui, mais ça, est-ce que tu t'es tombé dessus par hasard ou est-ce que tu visais quelque chose? Parce que déjà, te dire, j'ai allé en Alaska, c'est peut-être plus sexy, exotique que de dire, je vais aller à Renaison. Les ennemis du jour s'appellent, ce sera Renaison, parce qu'ils vont être vénères, les habitants.
Non, mais il y a surtout un autre point, c'est que, en fait, je pense qu'il y a eu un avant et un après Serge Aurier.
Tout à fait.
Oui.
Et je pense que avant, l'utilisation que tu faisais de Periscope.
On rappelle Daz,
oui, Serge Aurier, c'est donc le footballeur du PSG qui était filmé et qui a insulté
son entraîneur et
ses collègues et machin. Et donc ça a créé un engouement de fou. Enfin, en tout cas, c'est à ce moment-là que la France est rentrée en contact avec Periscope réellement parce que avant ça, effectivement, c'était plus l'utilisation que Mélissa en faisait. C'est-à-dire, on voyage dans le monde.
Ouais.
Et depuis l'affaire Serge Aurier, là, on se retrouve avec tous les loulous de banlieue qui s'amusent à filmer leur quotidien, leur virant en quad. Ouais. Et tous ces
les
trucs-là.
Les bars à chicha.
Les bars à chicha, voilà, avec les néons bleus. Et tu sens l'odeur de la pomme, tu vois.
Non, mais il y a même des mecs, pour faire des viewers, ils font semblant d'être dans un bar à chicha, quoi. Donc, c'est dire si le bar à chicha, il est plébiscité, hein.
C'est le MySpace angle de Periscope, c'est le bar à chicha, en fait.
Je pense, Mélissa, que si tu retournes sur Periscope maintenant, à mon avis, tu vas voir que ça a changé.
C'est vrai que c'est devenu beaucoup plus, enfin, il y a beaucoup plus d'utilisateurs, et qu'au début, en fait, c'était juste un réseau social de plus. Genre, moi, le premier Periscope que j'ai regardé, c'était la conférence de presse de Sarkozy, après je ne sais plus quelle élection l'année dernière, là. C'était hyper chiant. Ouais, il se faisait insulter parce qu'il y a les commentaires, tu peux pas les modérer. C'était très drôle à regarder. Ils parlaient tous de toutes les affaires qu'il avait au cul. Et
c'est
après.
C'est bien quand t'avais fait cette chronique, Mélissa, mais quand les hommes politiques se rushent sur des réseaux sociaux, ouais, et qu'ils savent pas où ils foutent les pieds.
Il faut qu'on y aille. Ah, en fait.
Damage control.
Et là, ils réalisent, ah bah non, c'était pas une bonne idée, on va pas le faire. Mais c'est vrai, après, il y a eu aussi les prisons avant Serge Aurier. Genre, il y avait la première vidéo qui était vraiment intéressante. Il y avait ça. Et après, à Nuit Debout, ce qui est ouf, en fait, avec Periscope, à Nuit Debout, c'est que, genre, les gens se servent de ça comme une arme. Et en fait, il y a ce truc, genre, c'est un peu la revanche, quoi. Periscope, c'est la revanche.
Une arme, c'était de défense.
Parce qu'en fait, comme les flics, tu sais, il y a vachement de violence policière. Les mecs, ils filmaient sur Periscope et les mecs, tu vois, ils leur chopaient pas leur portable. Ils disaient, genre, vous voyez, les flics, là, ils sont en train de me taper, tu vois.
Ah, d'accord.
Et tu vois, les images, elles restent 48 heures, ouais. Pour dire, genre, vraiment, vous voyez la preuve, là. Et c'est un peu, genre, tu te défends contre le reste du monde. Donc, il y a tout, quoi, en vrai. Mais oui, je constate, enfin, moi aussi, j'en ai vu des trucs où il se passe absolument rien.
Mais du coup, Mélissa, pour approfondir sur cette piste que toi, tu as, effectivement, Fibre, lui, s'est intéressé au ventre mou de Périscope, on va dire au monde réel de Périscope. Toi, ce qui t'intéresse, c'est peut-être la portée plus exceptionnelle de Périscope. Et on se retrouve avec d'autres apps comme FireChat ou des apps qui ont, ou Facebook à l'époque et Twitter qui ont permis de véhiculer, de fédérer des mouvements très forts. Pour toi, c'est
ça. Ouais, ça laisse des preuves vidéo partout dans le monde pendant 48 heures après. Mais
c'est fort que des gens utilisent une application comme bouclier physique quand même.
Et comme c'est vraiment dans l'immédiateté que personne peut les couper. Enfin, je sais pas s'ils les coupent si vite.
Bah, du coup, non, parce qu'ils vont voir la main qui va venir couper. Donc c'est fou parce que ça devient.
C'est dingue.
Et on sait qu'on peut pas truquer, en fait. C'est ce que Philippe disait dans sa chronique. On sait qu'on peut pas truquer le truc. Moi, ce que je voulais raconter, c'est que quand un nouveau réseau social ou un nouveau service sur Internet se lance, il y a toujours des early adopteurs.
Ah, je viens de spoiler la prochaine fac. C'est pas grave.
Ah, merde. Et, d'habitude, c'est, les mecs des startups, les mecs de la Silicon Valley qui testent le truc en premier. C'était le cas avec Periscope parce que c'est né au South by Southwest l'année dernière ou il y a deux ans, je sais plus. Et donc, d'habitude, c'est une certaine intelligentsia. Voilà. Donc après, c'est suivi par les journalistes techno, ensuite les journalistes généraux. Ensuite, voilà,
en plus, ça prend
démocratiquement,
etc. Ça a été racheté par Twitter.
Ouais.
Voilà, ça a été racheté par Twitter. Bah là, Periscope, c'est pour moi le premier réseau, peut-être avec les Skyblog, qui sont dont la croissance organique est le fruit d'une population, d'une catégorie de la population qui n'est pas d'habitude celle des nouvelles technologies.
D'accord.
Et je trouve ça hyper intéressant. Grâce à un footballeur. Non, les fans de foot, je voulais dire.
Ah,
les alors, fans de foot, de footballeurs de Sauvran.
On va ajouter les fans de foot aux habitants de Renaison comme ennemis de cette émission.
Mais j'ai pas dit que c'était des ennemis. J'ai dit que c'est d'habitude, c'est pas eux qui démocratisent ou qui s'emparent d'un réseau social.
Et donc ce qui me fait rebondir sur une des questions aussi critiques autour de Periscope, mais aussi des réseaux sociaux, des nouveaux réseaux sociaux et plus particulièrement des réseaux sociaux rachetés par Twitter. Est-ce que du coup Periscope peut devenir un outil extrêmement populaire à tous les sens du terme, ou est-ce que ça va rester un outil avec des sortes d'instants de brillance ou de représentation très très fort et qui après va un peu retomber comme peut l'être Twitter aujourd'hui? Est-ce que ça va être un entre-deux comme Vine qui a une scène très vibrante mais très locale aux États-Unis et qui ne perce pas plus mais qui est en tout cas très solide? Et se fout souvent de notre gueule en disant qu'on a dit que Vine ne marcherait pas. Mais aujourd'hui, pense qu'on Vine, on ne sait pas si Vine marche. Est-ce que comment vous voyez Periscope dans la galaxie Twitter?
Ça sera le premier cas que tu citais, c'est-à-dire des moments d'engouement en fait qui sont liés fortement à l'actualité et puis qui après l'outil retombe en fait parce que tu restes effectivement dans du streaming en temps réel que tu peux pas monter sur lequel tu peux t'as très peu d'emprise en fait.
Faut voir comment ils vont le pimper parce que chaque réseau social, si jamais tu réussis pas à améliorer l'expérience utilisateur en permanence pour que ce soit de plus en plus indispensable, tu meurs. Donc là, on est encore dans des moments où on se rend compte de l'efficacité du truc. Pour les violences.
Tu penses à Snapchat par exemple, qui a vachement évolué.
Bah c'est ça qui a pris plein de fonctionnalités. C'est devenu un peu bordélique, mais de fait ça marche hyper bien. Mm-hmm. Et on voit bien quoi. Twitter, ils arrivent pas à délivrer. Facebook, ils ont réussi à délivrer quoi. Enfin, c'est vraiment le truc. Est-ce qu'ils vont se rendre indispensables? Pour l'instant, ils le sont un peu parce que c'est une arme, donc un spectacle hyper fascinant. Mais on va voir si quelqu'un les dépasse pas.
Sylvain,
ce week-end, ils ont rajouté 3 fonctionnalités.
Ouais, parce que c'est plutôt spartiate quand même.
Ouais, pour l'instant c'est spartiate, c'est une carte et tes followers, t'es notifié quand tes followers lancent leur truc. Là, ils ont rajouté une barre de recherche qui permet de chercher par thématique, les émissions, les choses comme ça, les broadcasts. Et ils ont rajouté une autre fonctionnalité qui est de pouvoir regarder des vidéos filmées par des drones un petit peu partout dans le monde.
C'est tellement fascinant et effrayant en même temps.
Ouais.
Il y a un côté Big Brother pour tous.
C'est-à-dire que
si on
quadrille le monde avec des drones, avec Periscope, on va pouvoir accéder à ça.
Non, mais c'est totalement ça.
C'est le deuxième. Enfin, moi, c'est un truc qui me choque tout autant que le bouclier symbolique face à la violence physique. C'est que là, tu te dis qu'on peut créer raisonnable un Big Brother ultime.
On dit c'est trop cool, filmez-nous, trop bien.
C'est fou.
Le drone au-dessus de Studio 404, cool.
De qualité. Fibre.
Je suis la personne qui a dit Vine n'a aucun avenir il y a 2 ans.
Mais du coup, t'as à moitié raison, non?
J'ai envie de dire que Periscope n'a pas trop d'avenir.
Ok.
Parce que déjà, ça appartient à Twitter en lui-même, qui est un média très lourd, mais qui a du mal à progresser en ce moment. Donc on se pose des questions. Donc c'est pas Google. Donc un jour, ils vont être à court de sous, tout simplement. Donc il va falloir fermer des choses, couper peut-être Vine ou Periscope. Donc il y a ce problème-là. Et deuxième problème, pour qu'un Peri augmente en puissance, c'est-à-dire qu'il ait 1000 viewers, ça vient pas tout de suite. il faut que ça prend une heure. C'est-à-dire, vous vous installez, vous commencez à faire quelque chose de pas trop chiant, et puis vous en avez 50, 100, 200, et puis à un moment, vous avez 1000. Ça peut prendre une heure, deux heures. Et je trouve que c'est des séquences de temps un peu trop longs par rapport à l'usage que font les gens habituellement.
Et on pourrait pas avoir des systèmes de rendez-vous comme Twitch crée des systèmes de rendez-vous, parce que ça, c'est une problématique de plateforme de streaming.
Aujourd'hui,
en fait.
Periscope, il est sous perfusion par Twitter, qui le met en autoload
dans Twitter.
Voilà, dans Twitter. Donc, bon, c'est pour ça qu'il y a les 80 000 viewers de Nuit Debout. Est-ce que ça va durer? Je suis plutôt pessimiste à ce sujet. Voilà.
Vous autres, est-ce que...
Ça veut dire que ça va marcher, donc.
achetez des actions Twitter.
Quel est votre pronostic, pour finir?
Pour moi, le principe de rendez-vous, etc., est super intéressant sur le live, mais il fonctionnera pour moi sur Facebook Live, où t'as des médias qui commencent à faire des mornings, 8h, tac, je notifie tous les fans d'une page Facebook, paf, il y a un morning à cette heure-ci, et 4 jours par semaine, ce sera comme ça. Periscope, ils vont avoir le même problème que Twitter, qui est un problème très très important auquel Twitter a beaucoup de mal à faire face, c'est que tout le monde est sous pseudo. Donc t'as du harcèlement énormément, du cyberbullying. Et effectivement, franchement, lance un Periscope là en plein après-midi ou en soirée, tu te cales 30 minutes devant et tu commences à raconter des choses, tu te fais troller mais de ouf quoi.
Ah ouais.
Tu te fais insulter, vas-y rentre chez toi, t'es mal coiffé, c'est quoi ces cheveux, t'as une sale gueule, tu vois, c'est assez compliqué en termes de d'amour propre de faire un péri et de garder son sang-froid.
Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc toi, pour toi, pareil, t'es assez pessimiste.
Je suis pas pessimiste mais ça restera un truc pour la déconne. Ce sera jamais un truc sérieux comme.
Tu diras ça aux mecs qui se font tabasser par des CRS.
Et très lié à l'actualité du coup.
C'est
aussi,
la déconne, les gars.
Mais très lié à l'actualité.
C'est un truc qui est fait pour la déconne.
Mais ce sera
quand
toujours
un pronostic pessimiste.
Ça va rester un truc utilisé par les utilisateurs et très peu par les marques ou les médias, je pense par exemple.
D'accord, oui. Et pas par Nicolas Sarkozy en tout cas. Voilà. Enfin, plus du tout. Daz, ton pronostic.
Eh bien, je pense que Periscope va se périscoper avec d'autres services. Padam, bah. Je pense qu'il
Obama out.
À un moment donné, ouais, mic drop. À un moment donné, ils vont se, enfin le, ouais, le service va rentrer vraiment en concurrence frontale avec des plateformes de streaming.
Il y en a d'autres.
Twitch ou.
Il y a Camcord qui est une plateforme de streaming. C'est un Twitch pour mobile qui marche très bien aussi. Mais c'est vrai que le streaming pour mobile, ça va être.
Le streaming, tu vois, comme Twitch, comme Play TV, tous ces trucs là qui. À un moment donné, il va falloir qu'ils trouve ce qui est différenciant.
Oui.
Et franchement, faire du streaming vidéo, attention, finalement,
quand
réel.
Tu dis différenciant, on dirait Sylvain.
Ouais, oui, pardon. Qui dit ça.
Non, mais c'est parce que je suis à côté de lui.
Il dit un truc pas pareil.
Voilà. Il me contamine. La valeur ajoutée, elle est très.
Là encore, excuse-moi, c'est moins normal.
La valeur ajoutée, excuse-moi, à la COGIP, on s'en sort toujours.
La granularité de l'utilisateur.
Non, mais en fait, je trouve que la plateforme a très peu de. Elle a pas d'identité, finalement. Tu vois, à la différence de Snapchat qui a réussi à faire un truc avec
c'est
le
vrai.
Principe des streams, etc.
Ouais.
Là, en gros, demain, t'achètes des gros serveurs, tu proposes un service de streaming en temps réel et boum, t'es Periscope. Quoi,
pourtant, ils ont tué Meerkat qui était
le Periscope indépendant.
Le Periscope qui était avant Periscope d'ailleurs.
Ouais. Bon, on verra en tout cas. Mais c'était peut-être une bataille dans un bocal.
Peut-être.
Mélissa, pour finir, ton pronostic. T'y crois plus, toi?
Non, mais en fait, ils sont cool. Donc, pour l'instant, ils sont politiques. Mais c'est comme Twitter. Ils vont avoir les gens cool et qui vont se croire cool. Et le truc, c'est que Facebook est arrivé avec son milliard d'utilisateurs. On fait des Facebook Live. Donc, pour l'instant, c'est encore très corpo, très, très formaté. Mais ils vont se faire bouffer par ça. Enfin, s'ils changent pas.
Tu rejoins un peu Sylvain, c'est que Facebook Live, pour toi, un potentiel.
S'ils changent pas dans 6 mois, l'expérience utilisateur et tout, c'est mort, quoi.
Très bien. Mais on a vos avis. Et nous aurons vos avis à vous, chers auditeurs, puisqu'on profite de cette émission du mois de mai et du lancement du forum. Est-ce que le forum est en ligne, Daz?
Le forum est en ligne.
Sur forum.
Je le monitore toutes les 22 secondes.
Sur forum.dequalité, qualitr.com.
Ouais, c'est ça.
On inaugure un petit suivi, un petit SAV d'émission. Donc, on vous posera une question qui sera liée à la chronique de chacun de nos chroniqueurs. Donc on va commencer avec Fibre et on vous demandera donc de prendre les paris sur Periscope. Donc venez nous rejoindre sur le forum, venez faire de la page vue parce qu'on n'a pas de pub dessus, donc c'est important de faire de la page vue. Et venez donner aussi vous vos pronostics et nous dire si Periscope sera le nouveau Twitch ou si Periscope sera le nouveau Vine. Allez, on attaque tout de suite avec la deuxième FAQ.
FAQ.
Deuxième FAQ, et donc qui a été à moitié spoilé par Sylvain. C'est pas bien, Sylvain.
J'ai pas fait exprès.
C'est une FAQ qui nous vient de Sylvain Kovacic, aka Slyco, sur Twitter. Il nous dit « Ressentez-vous toujours de l'excitation à la découverte d'un nouveau site, comme à l'époque des MSN, des forums, etc. » Ah ah ! Sommes-nous devenus des vieux briscards blasés par la vie et des parisiens, on peut le dire ? Ou est-ce qu'on a toujours cette petite équitation à chaque fois qu'un nouvel app sort, un nouveau réseau social sort et qu'on a envie d'en être, qu'on a envie de le découvrir, on a envie d'y croire en fait. Alors qui a envie de répondre? Qui est dans le... Alors Daz a levé la main le plus vite, il a fait une fibre.
Oui. Alors 6 points. ouais, moi j'ai toujours ce petit truc, ce petit frisson comme quand je lançais Google Wave. Avant de me rendre compte que ça servait à que dalle. Ouais, j'ai toujours ce petit truc là. Tu vois, je l'ai eu avec Slack, je l'ai avec Discord.
Ouais.
Je l'ai eu avec Discourse aussi. Qui ouais. est le moteur qu'on utilise pour notre forum de qualité, n'est-ce pas ?
Est-ce qu'il est en ligne, ce forum ?
Oui, il est tout à fait en ligne. Donc ouais, moi j'ai toujours ce petit frisson là de, tu vois, de découvrir les fonctionnalités. Ah. Mais il faut que le site quand même donne envie.
Donc sous ce lourd regard de l'expérience et cette envie de sniper le monde entier.
Et un petit cœur.
Le cœur d'un ouais, enfant.
Oui, tout à fait.
Oh, c'est mignon. Mélissa. Enthousiasme. Alors, ou blasance?
Disons que je l'ai fait pour beaucoup de trucs, pour beaucoup de sites. J'ai fait ouais, super, on y va.
Hello.
Exactement. Hello, genre j'ai créé des hello pour les boîtes dans lesquelles j'étais en me disant attendez les mecs, ça se trouve. Et deux jours après, je fais ouais non, en fait non. Mais là, j'ai tenu que deux jours. Alors que par exemple, je sais plus sur quel truc, je me rappelle même plus. Mais il y a un réseau. Bah par exemple Tumblr, j'ai pensé pendant longtemps que genre fallait vraiment avoir des blogs Tumblr pour des boîtes, alors que ça n'a aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt pour des boîtes. Alors que Tumblr est hyper efficace par ailleurs sur internet, hein. Mais du coup des fois je me dis non mais attends meuf, tu vas pas y aller, ce que je me suis dit pour Snapchat, et voilà. Maintenant j'y suis. Parce que j'ai eu la flemme, je dis non mais c'est plus pour moi, attendez, c'est les trucs de jeunes là qui s'envoient des photos de
sexe. Hein. On va ouvrir
un
capital d'investissement risque.
Il faudra faire tout l'inverse à chaque fois.
C'est quoi, on va l'appeler sapin.
Non mais au début c'était hyper chiant et ça reste hyper chiant en termes d'expérience
sapin
utilisateur,
Ventures.
Je veux pas dire. Mais...
Sapin capital. Si tu investis chez toi, ça sent sapin.
Des eaux, bah non, des eaux.
Trembler Sequoia Capital. Sylvain, enthousiaste ou blasé?
Je suis pas d'accord avec toi, Mélissa, sur Tumblr, mais c'est un autre débat.
Moi,
je suis toujours très chaud pour tout tester.
Ouais.
Mais
être chaud pour tout tester, c'est pas pareil qu'être vraiment enthousiaste et excité.
Mais je suis toujours enthousiaste, sauf d'accord. que maintenant, j'arrive à repérer vite fait. Bon, je dis pas non plus que
non,
je suis devin.
Mais quand, pète,
en fait, moi, je pars du principe qu'il faut que je teste et je suis enthousiaste pour tout.
D'accord.
Sauf que maintenant, j'arrive à voir quand même quand il y a un truc où je sais que personne va y aller, quoi. Tu vois, personne n'en a déjà parlé.
Un peu critique littéraire quand c'est un peu lié en diagonale et au bout de 30 pages, je fais oulala, ça
ouais,
sent
voilà.
la brique.
Non, mais tu vois, des fois, je m'abonne sur un truc, je le teste, je fais ouais, c'est pas mal, je regarde un petit peu. Et puis, je tweete un truc du genre, bon, je me suis inscrit là-dessus, mais franchement, j'y crois pas, n'y allez pas, quoi.
Mais en fait,
excitation de principe.
Ouais, ça ouais,
attends, mais attends, pour que tu valides un truc, il faut que tu saches qu'il y a des gens qui s'en servent. Je veux dire,
le
produit ne peut pas suffire en lui-même.
Non, c'est m'inscrire,
mais non, justement,
aller voir.
Il est dans un niveau de conscience au-dessus de vous.
Ah, bah oui,
mais non, mais tu ressens si un truc est intéressant et va marcher, s'il y a aussi de l'enthousiasme.
Je suis toujours sur NetVibes.
Tu es dans le syndrome.
Il y a personne, mais je m'éclate.
Il y a de l'écho.
Un bonjour à nos amis NetVibes. On a beaucoup d'amis chez NetVibes. Bonjour à nos amis de chez Dassault aussi.
Oui, c'est vrai.
On fera un partenariat avec Dassault,
écoute,
les missiles.
Pas de problème. Pas de problème.
On fera un podcast RR et RTR. Ça va être tellement rigolo. Fibre.
Alors, moi, c'est une source d'angoisse et de pénibilité totale. Je ne suis pas du tout enthousiaste parce que, pourquoi ? C'est très simple. Si c'est un nouveau réseau social,
ouais.
Je ne vais pas m'inscrire pour rien. Je vais aller jusqu'au bout du truc. Je vais essayer de conquérir le game, tout ça. Donc, il faut comprendre.
Avec Snapchat actuellement.
Ouais, il faut, c'est de l'investissement. C'est
d'accord.
beaucoup de travail en plus. Et si c'est, par exemple, le passage de Gmail à Inbox,
ouais.
Je l'ai fait. Je suis
gros
hyper heureux.
Gros traumatisme.
Mélissa, par exemple, elle est complètement. Elle a sonné la retraite. Elle est retournée sur Gmail. Elle est recroquevillée chez elle et tout.
Je suis restée une demi-heure.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis très content d'être passé au travers du mur, au travers de ma peur, au travers de tout ça. Mais ça a été extrêmement pénible. Mais aujourd'hui, effectivement, de l'autre côté du mur, l'herbe est verte, il y a des
soleil,
arc-en-ciel.
Et on est très bien avec toutes les
fonctionnalités. Et ce clavier Beppo, mon petit fibre.
Ah ouais, le clavier Beppo, 9 mois de souffrance. Mais aujourd'hui, je suis hyper heureux. Mais là encore, je pars en week-end. Je prends mon clavier Beppo, sous-vêtements, chaussettes, t-shirts et clavier Beppo. Voilà.
C'est quoi, on t'ouvrait une section Beppo sur le forum pour toutes les passions douloureuses.
Pour tous les Beppos.
Ouais, pour tous les Beppos.
Non, mais je veux dire, cette s'enthousiasmer pour un nouveau système, c'est vraiment le
un truc de beatnik.
Non, mais mentalement.
Un truc de gens légers.
Mentalement, ça veut dire que tu vas pas t'investir dedans.
D'accord.
Or, voilà, c'est une bataille le web.
J'aime beaucoup comment il y a des souffrances et des traumatismes dans la technologie avec Fibre, je trouve ça très beau.
Allez, on attaque tout de suite la seconde chronique avec Mélissa.
Sujet numéro 2.
Tendance, réseau, obligation, comment nos nombreux pseudos ont évolué sur le net.
Pou 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 pou. Un article de Slate, je n'ai pas de pseudo. Stop à la
C'est bon, j'ai fini.
Stop à la tyrannie des pseudos.
Je n'ai jamais eu de pseudo.
Non. Voilà. Oui, je suis sur Internet. Non, je n'ai pas de pseudo. Alors.
Mélissa, on parle de pseudo. Bonsoir, Miss Press.
Bonjour. Alors, moi, c'est Mélissa, aka Miss Press, donc. Aka Mélissa _ B. Aka Mélissa Mounois. Aka, trois petits points. Non, je ne vous donnerai jamais mon tout premier pseudo.
Oh là là.
Il ne ressemblait à rien.
Tu me donneras sur le forum.
Peut-être pas. C'était donc en 2002 sur MSN. Après, il a fallu que je crée une adresse mail, Hotmail, et j'avais un autre pseudo qui était, voilà, toujours pas mon pseudo celui-là, actuel.
On va négocier, tu peux nous le céder celui-là.
Non, toujours pas. Ça remue trop de choses. Vous savez, en fait, c'était l'époque où on mettait son année de naissance ou son département partout. Et avec après notre petit nom préféré, qui était souvent on pensait qu'il était cute, mais en fait, il était juste ridicule. On pensait que, voilà, Internet, ça faisait deux ans, on pouvait faire des trucs de fou, quoi. On savait pas qu'on avait 20 ans devant nous, voire toute une vie, voire des décennies. Daz, Fibre, Ghislain, Lame, Sylvain, donc on discutera de tous vos pseudos les plus honteux. Je sais que je vais réussir à vous les faire sortir, même si moi je ne donnerai jamais le mien. Daz et Fibre, vous êtes encore sous pseudo, mais on sait bien que clairement ce ne sont pas vos pseudos les plus honteux. Et donc il a fallu que j'assume un jour.
Et si.
C'est ton pseudo le plus honteux.
Ouais.
Putain, il assume quoi. Donc après il a fallu que je rentre dans le game un peu quoi, que j'ai fait ah ouais Internet c'est un peu sérieux. C'était en 2007 et là j'ai créé mon premier blog avec misspress.wordpress.com.
Ah c'était en 2007 alors.
C'était en 2007 ouais, je suis un peu old. Cherchez pas par contre, je l'ai fermé le blog.
En fait tu caches tout hein.
Oh, ouais, c'est horrible.
Je fais un peu de nettoyage mais c'est un peu mal fait donc il y a des choses qui doivent rester. Enfin bref, je me souviens très très bien de ce jour-là, le jour où j'ai trouvé Misspress. J'étais trop fière de moi, mais j'ai croisé un camarade d'école à l'école de journalisme et je lui ai dit « Non mais t'imagines, à 30 ans, si je suis encore obligée de porter ce pseudo, vraiment je vais être ridicule quoi. »
Encore un bon flair de bis. Hein.
Ça
et là, j'ai 30 ans dans 6 mois.
Adventures.
Non mais attends, le truc c'est que mon pseudo après, il colle quoi. Il reste, c'est comme Daz, on se souvient de Daz et Fibre, on l'appelle Fibre, on l'appelle pas par son prénom.
C'est comme Daz, il colle.
Aussi.
Il reste.
Aussi.
Enfin bref, c'était en fait une époque où bah on avait tous nos blogs, on connaissait tous nos pseudos, tout ça c'était ok. Et puis après il y a eu cette saleté de Facebook là, et donc il a fallu lâcher son nom parce que c'était soi-disant plus facile pour retrouver ses amis. Très facile. On aime quand Facebook nous demande de faire des choses faciles. Donc on a arrêté en fait aussi après les conneries, c'est-à-dire les études, et on est arrivé sur le marché du travail. Donc il a fallu qu'on devienne sérieux. Donc là j'ai abandonné mon mail Hotmail et j'ai créé un petit Gmail du type prénom.nom@gmail.com.
Gmail a un peu été le Facebook du coup des mails en fait.
C'est ça, c'est un peu la suite logique. Enfin moi pour le coup j'ai fait un Gmail avant Facebook pour vous dire, donc je pense qu'on a tous fait d'ailleurs ça, et vous avez tous votre prénom.nom@gmail.com ainsi qu'un autre Gmail ou un autre Hotmail avec un pseudo complètement complètement
je
honteux.
Confirme.
Un Sylvain. Ce qui fait donc que maintenant en fait on se retrouve avec un bordel sans nom. Ou en fait,
sans
non, un bordel avec plein de noms et donc plein de pseudos parce vous n'êtes pas sans savoir que le nombre de réseaux s'est multiplié. Donc on va faire dans l'ordre, Caramel, MSN, après on a eu des blogs, après on a eu Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest et Snapchat dernièrement. Et donc il a fallu avoir des pseudos avec. Donc là je cite que les gros, mais on se souvient aussi, on en parlait tout à l'heure, de Tumblr, Google+, enfin Tumblr existe toujours, hein. Google+, existe toujours, mais bon. Google Buzz n'existe plus, Hello, Pandora. Ouais. Et donc on est tous allés en internaute avertis, on est tous allés rapidement
enthousiastes
comme Sylvain, ou moins enthousiastes comme Fibre et moi. On est tous allés squatter notre pseudo au fur et à mesure que les années ont avancé et que cette race horrible que sont les cybersquatters se sont développées. Et en fait il y a un mec quand même, quand j'ai pas renouvelé misspress.fr, qui l'a squatté pour mettre un site de e-commerce. J'étais quand même un peu vénère, mais bon j'avais décidé de pas le renouveler.
Si tu veux on te donnera misspress de qualité.
Y a pas de problème. Qu'est-ce que je ferais dessus, voilà, grande question. Je suis hyper enthousiaste. Donc tout ça, on le vivait bien au début. Donc quand j'arrive sur Instagram, il y avait toujours Miss Press qui m'attendait. Mais là, quand j'arrive sur Snapchat en 2015, il n'y a plus Miss Press. Alors qu'est-ce que je fais? D'abord, je dis ça marchera jamais. Et puis maintenant, vous retrouverez mes stories en cherchant Mélissa Bounois. Mélissa Bounois tout attaché, c'est très long, c'est hyper horrible. Et donc on ne sait plus comment faire. Et quand on ne sait plus comment faire, qu'est-ce qui arrive? L'agence Studio 404.
Hey.
Un problème, une solution. Comment faisons-nous pour choisir nos pseudos?
Pseudo-éo.
Commençons déjà par une petite slide cahier de tendance de 98 à nos jours. 2003. Bon, en fait, je commence pas du tout en 98.
Oh, la meuf qui a slashé à mort,
Je fais genre que j'étais sur Internet en 98.
Toi, quand tu rendais des copies à la fac, t'avais les deux carreaux en plus de la marge, là, à droite.
J'étais pas du tout sur Internet en 98, ou moins rencontrer, j'étais trop jeune pour ça. Ou alors trop
bête. C'était pas fou, hein, c'était pas fou.
Si, ouais. C'était cool. Ah,
pour les bon, attendez, je vous, fou. Fais, je vous fais ma petite ouais, chrono. Bah, donc 2003-2004, MSN Caramel, on va appeler ça, j'essaye de vous mettre des réseaux à chaque fois. Donc au début, c'est notre nom de star préféré ou notre petit nom qu'on a à l'école ouais. ou au collège avec notre année de naissance ou notre,
combien de notre du département. 94,
hein. Du coup, ce qui peut donner des petits 6 ou 42 ou Daz du 9-4.
Jamais.
T'as jamais eu ça, Daz?
Non.
Oh, allez, je suis sûre que c'est vrai.
Non, jamais.
2005-2006, les blogs. Alors là, faut un nom court et cool. Donc, quand il a fallu se doter d'un nom de domaine, fallait, voilà, fallait pas faire trop formel non plus. Fallait pas encore donner son nom. Fallait pas faire des sites portfolio.
C'est la fin des chiffres.
Donc là, c'est le moment Monsieur Lame ou le moment Fibre Tigre. Ouais. C'est cool, c'est court, c'est efficace, mais c'est pas vos noms de famille non plus. 2006-2007, Facebook, Twitter. Donc là, on a un peu donné notre vrai nom. Au début, il y a plein de gens qui avaient des pseudos sur Facebook. C'était un peu bizarre. Sur Twitter, on a essayé de tous prendre de continuer avec nos pseudos de blog parce qu'en fait, on servait de Twitter et Facebook pour faire la com de nos blogs. Mais on restait un peu décontracté, hein, donc après au niveau des noms de domaine par exemple on essaye de faire mieux que les autres, donc ça peut donner ensuite aujourd'hui un sylvainpalais.cool.
Tout à fait.
Et ensuite il y a
pas mon blog.
Voilà, qui est un site tout à fait professionnel. Et ensuite on a la grande période du Maelstrom de 2010-2014, Instagram, Snapchat, Pinterest égale tout. Tous les réseaux, on a tout testé. Alors là ça a été le bordel, là ça a été la guerre, là ça a été le Far West. Donc en fait là on se dit, si t'as pas squatté ton truc, si t'étais pas le premier, si t'étais pas enthousiaste, ça donne Insta Mélissa, Mélissa Snap, je ferai jamais ça. Et si tu crois que t'es vaguement connu, là tu fais Miss Press off Insta, off pour officiel, mais Insta. Donc là c'est hyper long, il y a underscore, tu comprends pas pourquoi, c'est horrible, mais il y a vraiment des gens qui font ça, c'est dans la typologie des pseudos. Et après alors il y a toute une nouvelle vague, là je suis un peu perdu, il y a Daz qui fait ça, je suis peut-être une vieille conne, donc il y a tous ces jeunes qui gardent leur hâte mais qui changent leur nom au-dessus.
Ouais, sur Twitter.
Donc Daz, c'est quoi ton truc en ce moment là?
Là c'est Dastradamus.
Mais avant c'était quoi?
Avant c'était Old Dirty Bass Daz.
Et avant c'était quoi?
Dastanian.
Avant ça devait être non, il y avait Dastona USA ou
Daz la Bicrave.
Ouais, ça c'était le premier. Ouais. Ouais, je le change toutes les semaines moi.
Donc mais là il y a un pseudo en sous-couche d'un autre pseudo quoi.
Ouais, globalement en gros ce qui est bien c'est de rester dans le game, et si on veut faire simple, ben on fait prénom nom et c'est la solution simple et efficace. Et comme aujourd'hui un peu, enfin pas tous ici mais certains ont envie qu'on nous retrouve par nos noms de famille, ben on a tous fait un petit prénom nom. Et après il reste quelques petites contraintes, par exemple quand Cyprien, il s'appelle toujours @monsieurdream sur Twitter. Ouais. Pour la simple et bonne raison que Twitter a décidé que quand t'es verified, donc vérifié, tu peux pas changer ton pseudo, sinon tu perds ton truc.
Monsieur Dream, c'est dur. Hein.
Ouais. Monsieur Dream, c'est dur.
Il y a deux mecs que je connais, j'ai une pensée émue pour eux, c'est Monsieur Dream et notre ami Anne Fan, donc le boss journalistique.
Ouais, Néo Angel. Ouais.
Le mec qui a fêté ses 40 ans en août, il s'appelle Néo Angel.
Ouais, c'est dur. Ouais, c'est
voilà. Très dur. Moi, si je passe les 40 ans avec Miss Press, ça va quand même pas trop le faire.
Ah, parce que t'es verified, c'est pour ça?
J'ai rien dit. Je ne dirai rien. Donc les perfectionnistes, après, ils vont essayer de se battre pour avoir le même handle, mais sur tous les réseaux.
Eh oui.
Mais vraiment, il y a des gens qui ont des petites cartes. Fibre nous en parlait, des petites cartes avec vraiment tout le même pseudo, juste tous les noms des réseaux à côté.
Ça, c'est vraiment
les mecs qui se la pètent, quoi.
C'est vraiment, t'as tous tes trophées accrochés au mur.
Après, il y a l'autre catégorie des grosses stars qui, en fait, demandent à récupérer leur truc. Ouais. Enfin leur handle quoi, et il y a que Instagram qui dit genre non mais en fait c'est mieux si les gens ils les gardent même s'ils les ont squattés au début. Je pense qu'il y a toujours du cas par cas.
Non,
et après il y a les gens courageux comme Fibre Tigre qui a envoyé des lettres dans le monde entier pour récupérer Studio 404 sur Twitter. Voilà, donc si on a Studio 404 sur Twitter, c'est grâce à Fibre. Et donc dernière question de l'agence 404, c'est est-ce que justement il faudrait pas créer un espèce de pseudo universel, le même partout pour chaque internaute?
Aha.
Vous imaginez, à chaque fois qu'on arrive sur un réseau, il est réservé pour vous. Alors bon, ça en fait, dans l'idée, c'est impossible parce que aucun réseau n'a envie de discuter avec l'autre.
Ouais.
Il faudrait que tout le monde se mette d'accord. Donc, il faudra une espèce de consortium des réseaux sociaux. Je pense que ça n'arrivera jamais parce qu'ils ont tous des intérêts commerciaux.
On le fait déjà un petit peu dans les commentaires.
Dans les commentaires.
Avec Discus, ouais.
Oui, t'as des trucs.
Ouais.
Ça va pas être facile.
C'est léger, quoi. Et puis Discus, enfin, c'est pas très.
Discus, tu te connectes avec ton Twitter ou ton Facebook.
Ouais, mais du coup, tu vois, ça te.
Ouais, moi, des lamueurs en Chine, transverse. Je peux dire qu'il y en a beaucoup.
Ah oui, oui.
Non, mais imaginez, par exemple, moi, pour Miss Press, est-ce que je le récupérerais parce que je l'ai sur Twitter depuis longtemps, ou est-ce que les mecs qui l'ont squatté, ils ont plus de. Enfin, par ailleurs, sur d'autres sites, là où ils l'ont eu, par exemple, sur Snapchat, je sais pas, j'ai pas regardé ce que ça donnait, mais ça se trouve. La meuf ou le mec ont plein de gens. Et puis surtout, il y a un gros problème, c'est qu'en fait, si vous avez un pseudo, Il y a juste à taper votre pseudo partout dans tous les réseaux et les mecs ils retrouvent tout ce qu'ils font, quoi, tout ce que vous faites. Et là, ça, moi, je veux vraiment, vraiment pas que ça arrive. Parce que, mine de rien, je suis un peu contente d'avoir que 20 personnes qui me suivent sur Snapchat. C'est un peu drôle d'être.
Comment elle fait sa pub depuis tout à l'heure.
Alors, vous plaît,
suivez. Mais non, mais je suis hyper bien. Parce que du coup, je sais que c'est comme Twitter au début quand on était 10, quoi. C'était vraiment cool, quoi.
C'est vrai, c'est comme quand t'as un blog que personne ne lit. Mais bon, tu peux faire ce que tu veux.
Ouais, et donc, franchement, vu qu'on a une époque où on passe trop de temps, enfin, beaucoup de temps sur ces sites et on y bosse aussi, on peut se dire en fait que ça nous peut-être que ça nous définit autant que notre numéro de carte d'identité. Donc est-ce qu'il faudrait pas régir un peu tout ça?
Ah, proposition forte de Mélissa,
c'est dangereux mais possible,
de l'agence 404. Ouais. Aussi
une proposition de droite là. Hein,
ouais.
Elle est aussi CEO de Sapin Ventures, hein, je vous rappelle.
Le pseudo relié à la carte d'identité, relié au passeport, relié au livret de famille. Voilà.
Avant de répondre à la question très Big Brothers de Mélissa, vous devrez nous livrer aux auditeurs deux pseudos que vous avez utilisés avant de pouvoir répondre. Hein, parce qu'il faut se mouiller un peu les amis.
Tu veux un pseudolix, c'est ça?
Putain, c'est chaud.
Ouais, un pseudolix.
Moi, ça va pas être dur, hein, j'en ai que deux.
Oh, l'autre.
Mais c'est vrai que Mélissa disait qu'il y en a qui arrivent à mettre leur pseudo le même partout, et Daz, le tien est tellement ripou, on va pas se mentir. Il est tellement pourri qu'en fait, du coup, t'es peinard. Quoi. Toi, t'arrives en chaussons, de toute façon, le truc...
Non, parce que DAS, ça existe.
Oui, non, mais DAS, JDM.
Bah oui, mais ça, j'ai pas le choix.
JDM, parce que je crois que personne ne sait ce que ça veut dire aujourd'hui.
Ça veut dire Japanese Domestic Market. Non, ça... Non, mais alors, attends, parce que revenons au tout début.
Alors déjà, livre-nous ton autre pseudo.
C'est Alfcast, ça veut dire métis.
Alfcast?
Ouais, c'était mon nom de rappeur.
Ah, je crois que c'était genre, tu faisais des podcasts à Maison Alfort, quoi. Alfcast.
Bah, j'aurais pu faire ça, mais j'habitais pas à Maison Alfort.
C'est pour ça que ton blog s'appelle, je sais plus comment, là.
Ouais, Alfdaz.
C'est les deux, ouais. Alfdaz. Ouais. Alfdaz, en fait. Mais,
C'était incompréhensible.
Mais moi, mon.
Daz, il a très très mauvais goût.
Non, vous blaguez. Moi, Daz, j'utilise depuis 1992.
Oui, mais parce que Daz IDM. Aujourd'hui, tu mets Daz sur n'importe quel réseau social, tu ne retrouves, tu ne.
Bah, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a un rappeur qui s'appelle Daz, justement.
Ouais, mais c'est même si c'est pas un rappeur, n'importe quel mec, Daz, trois lettres, c'est pas possible.
Mais ouais, Daz JDM, moi c'était lié au journal du Mac au début, hein, donc en 2005-2006.
Oh là là.
Ah, c'était ça, j'avais
le mec était rédacteur du blog du journal du Mac, même Mélissa le réalise aujourd'hui. Mais c'est vrai, bah, encore une fois, tu vois, c'est truc genre, personne n'a posé la question, mais personne ne sait ce que ça veut dire, Daz JDM, c'est trop ripou comme...
justement, ça veut dire, ça peut dire jeu de merde, jeu de mots, et je te jure, il y a des gens qui me suivent, je vois, quand je clique sur leur profil, je vois que... Ils mettent des photos de Nissan 200SX tunés à mort qui font du drift et tout. Et je me suis rendu compte que JDM, ça voulait dire Japanese Domestic Market, qui étaient donc les voitures qui roulent au Japon, quoi. Je fais, oh putain, bon, bah, je le garde alors, du coup. Je suis Fast and Furious, tu vois. Mais moi, n'empêche, parce que c'est vrai, le mien, il est transverse, je l'utilise partout. Et personne me le voit.
Donc toi, tu fais partie de l'école des gens qui mettent un pseudo absolument partout.
Ouais, parce que je trouve que t'as une identité sur Internet et moi-même, ça me ferait chier de changer, en fait.
Donc, il n'y aura pas Daz Insta, Daz...
Non, jamais, jamais, jamais.
Ok. Sylvain?
Alors, je dois livrer les...
Ah, bah, on le connaît tous ici, hein.
Non, on connaît un de ces pseudos de mail.
Alors, moi, le problème que j'ai eu, que Mélissa évoquait, c'était cette histoire de... On se crée une nouvelle adresse Gmail avec son prénom-nom. Et on a toujours une adresse annexe avec un nom pourri à côté. Ouais. Sauf que moi, le problème que j'ai, c'est que mon adresse principale Gmail, c'est celle avec le nom pourri.
Ouais, moi
parce que je l'ai faite vachement tôt. Et il y a tout qui est lié à cette adresse-là. Donc je peux même pas basculer, tu vois.
Ah, donc tu veux dire tous tes comptes liés au service Google, etc.
Ouais,
etc.
Ouais. Tout Drive et tout, c'est tout lié à 6 sous 42, quoi.
6 sous avec deux hauts.
Voilà, avec deux hauts. Et du coup,
pour moi, c'est plus dur. Hein, c'est pas le 42. Hein.
J'ai même un moment.
42.
J'ai même forcé mon père à prendre comme opérateur AOL.
Ouais.
Parce que j'avais vérifié les dispos des mails et tout, je savais que c'était pas possible sur Club Internet ou je sais pas quoi. Et j'avais vu que sur AOL 6 sous sans le 42 était dispo.
Ouais.
Et je lui avais dit non mais j'ai benchmarké, c'est la meilleure offre.
T'es allé tellement
loin. 40 heures et tout gratuite, regarde, j'ai le CD.
Est-ce que t'as dit benchmarké?
Vous avez des emails?
J'ai comparé et du coup il a dit oui, et du coup j'ai pu avoir 6 sous à AOL.com. J'étais ouf, c'était trop bien. Et donc j'avais ça et moi j'ai découvert Internet en 98 à l'époque de Matrix.
Ouais.
Donc du coup j'avais un nom de hacker. Et
de hacker.
Paloon.
Néo Paloon.
Mon nom de hacker c'était Mystique.
Voilà. Ah, alors, en général j'ai vu tellement de Mystique, notamment dans le milieu des gamers, qu'il y a des K et des Y qui se battent quand même.
Ouais,
pas mal.
Bah moi j'ai joué un peu avec ça, des Y, des I, des K pour savoir comment jouer avec ça. Et je crois que c'était MYSTIK. Voilà.
Oh, comme Mystique. Le rappeur Mystique, MYSTIK.
Je connaissais pas le rappeur à l'époque.
Fibre, toi, enfin, ce qui est très fort par rapport aux autres, c'est que on t'a connu et aujourd'hui, la plupart des gens ne te connaissent que par ce pseudo Fibre Tigre.
Oui.
Donc, c'est vraiment un truc qui t'identifie très fortement partout.
C'est intéressant parce que déjà. D'accord.
Les autres pseudos.
Alors, j'ai un million de pseudos. J'en ai qui appartiennent à ma vie précédente. Je ne vais pas trop en parler, mais récemment,
le premier,
j'ai.
J'ai Ça, c'est un pseudo. Ensuite, j'ai F de souche.
Sur des, ça me plaît, ce serait marrant quand même. Non, c'est, j'avoue, je pourrais pas le dire, mais j'ai un compte un peu extrême dans lequel je peux faire mes blagues où je qui passerait vraiment pas, voilà. Mais sinon.
Donne-nous des pseudos, en tout
cas. Alors, ouais, Soliman, c'est bon compte sur tous les sites un peu jeux de rôle, tout ça.
D'accord.
Soliman, en référence à Soliman le Magnifique. Darius, Aleph, et j'ai aussi un compte multi sur Gamecult, alors que c'est interdit, du nom de Huître Farouche.
Mais dis pas que ça a été généré comme Fibre Tigre.
Non. C'était, je trouvais ça mignon, voilà. Quand je me fais ban quelques jours sur Gamecult, il y a Huître Farouche qui prend le relais, tu vois. Non,
il faut libérer Fibre Tigre.
Voilà. Attends, tu viens de révéler ta manigance à.
Couverture.
Tu sais qu'il y a des gens de chez Gamecult.
Mais ça leur fera du trafic, voilà. Ils seront contents.
Undercover.
Surtout, ils vivent en chasse à la sorcière.
Voilà.
Ah, c'est beau. Et donc, maintenant que tu nous as gâté avec tous ces pseudos, tu nous disais quoi par rapport à ton rapport à Fibre Tigre?
Eh ben, déjà, ça me permet de faire le tri IRL des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont révoltés à l'idée qu'on se prononce sur le nom d'un pseudo.
Ah ouais, c'est
vrai. Et tout de suite, je dis, bon, c'est un as, je travaillerai pas avec lui. Souvent, pour le business, par exemple, les gens, ils disent, je refuse de travailler avec quelqu'un qui a un pseudo. Surtout, on va dire, dans les pays de l'Est, par exemple, c'est très difficile. Les gens veulent un nom, un prénom.
Il n'y a pas de culture de pseudo dans les pays de l'Est.
Bah, je ne sais pas, hein, mais peut-être ils s'en méfient ou je ne sais pas quoi. D'accord. Mais en tout cas, ça a été très difficile de discuter. Par contre, quand je suis face à quelqu'un qui a, on va dire, qui a une bonne ouverture d'esprit, on me pose jamais la question de est-ce que c'est, c'est quoi mon nom derrière, tout ça, par curiosité, un nom qui n'a aucun intérêt d'ailleurs. Et donc ça c'est le premier point. Et deuxième point, ce qui est bien avec Fibre Tigre, comme le disait Mélissa. C'est que je mets que Fibre Tigre sur ma carte. Il y a que ça d'intéressant au final.
Ouais.
Parce que la personne, elle va sur Google, elle tape Fibre Tigre. Ouais. Elle a tout sur moi. Le bien comme le mal. Et c'est mieux qu'un CV. Pour moi, c'est très utile.
Donc c'est là où tu te détaches de Mélissa. Parce que Mélissa dit, je veux pas avoir toute ma vie regroupée sous un pseudo. C'est trop. Il faut que je fragmente. Toi, c'est quelque chose que tu vas soutenir.
Oui, mais Mélissa, elle a pas ce problème-là, on va dire, de se vendre.
Oui.
Mais d'ailleurs, dans ses propositions, il y en a une qui est pas du tout intéressante, qui est celle d'utiliser son vrai nom et prénom, parce que le 15e nom le plus utilisé en France et le 15e prénom, c'est Michel. Donc Michel ou Jacques Martin, c'est super courant. Des Jacques Martin, il y en a des millions, tu vois. Ouais. Donc si tu tapes Jacques Martin sur Google, tu as aucune info, t'es pas.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
D'être sur le bon.
Et vous savez que maintenant que Fibre Tigre s'appelle en fait Jacques Martin.
Voilà, non mais ça pourrait être le cas. Donc.
Fibre Tigre, c'est encore différent, toi, je trouve, ton approche, c'est que Fibre Tigre, c'est une marque plus qu'un pseudo. C'est-à-dire que tu l'as déposé.
Ça m'a dépassé.
Tu l'as déposé et quand tu travailles avec des gens sous le pseudo de Fibre Tigre, c'est une des certaines prestations qui sont attachées à ça. Demain, ça se trouve, tu vas travailler sous le pseudo Huître Farouche et ce sera un autre type de prestation et tu seras pas la même personne, une autre entreprise.
C'est une très bonne remarque.
Je ne peux même pas imaginer les prestations d'Huître Farouche.
C'est une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque.
Oui,
et ça, c'est un avantage du pseudonyme aussi, c'est que si demain je veux prendre ma retraite et quitter ce monde, j'ai qu'à changer de pseudo et faire autre chose, devenir dentiste sous un autre pseudo.
Ce que t'as déjà fait trois fois dans ta vie d'ailleurs.
Dentiste sous pseudo, c'est chaud.
Effectivement.
J'ai une carie. Attends, j'ai tombé de vite chez Huître Farouche.
Non, mais voilà. Et donc, effectivement, on a la chance de pouvoir vivre plusieurs vies. Et le pseudo, c'est l'outil fondamental de ça. Et c'est extraordinaire.
Très bien.
C'est vrai.
Et j'ai une autre question à vous poser pour aborder le gros point du pseudo unique. On a tous des amis qui ont des pseudos qu'ils essaient de conserver tant bien que mal. Et Mélissa disait effectivement, des fois on met en suffixe le nom du réseau, etc. Et puis il y en a qui vont modifier un peu l'orthographe. Là, je pense à un autre de nos amis que des gens connaissent bien, c'est l'animateur de C'est cool, c'est quoi, Nekoto. Il a évidemment pris un très mauvais pseudo parce que Nekoto, ça veut dire chat en japonais. Je pense que c'est les deux trucs les plus populaires d'Internet depuis 20 ans. Donc, il a commencé par s'appeler Nekoto. Il est arrivé sur Twitter.
Il a mis 2K.
Il a dû mettre 2K pour avoir un truc qui ressemble à Nekoto. Et je crois que sur un autre réseau, il a Nekoto, il a 1K, mais 3 O.
Sur Snapchat, il a plein de O.
Voilà. Il a des zéros aussi.
Il y en a certains qui mettent un underscore à la fin, ou un underscore au début, ou un point au milieu. Moi, c'est ce que j'ai dû mettre pour Instagram, ouais. Ou des trucs. Est-ce que vous êtes pour cette sorte de bidouillage qui fait que ça ressemble un peu au produit original?
Tu l'assumeras beaucoup moins, en fait, parce que, en général, quand tu fais ça, tu mets un peu de leadspeak dedans, tu remplaces les A par des 4, les S par des 5, et tu vois. Donc, ça fait un pseudo encore plus ridicule, même si t'avais essayé de prendre un truc pas trop ridicule au départ.
Ouais, donc, en fait, t'essaies de limiter les dommages, mais en fait, tu
mais en fait, c'est encore pire.
Mais surtout, ça crée des trucs bizarres, parce que sur les réseaux, les gens t'ont identifié comme ça, du coup, quand ils passent à un autre réseau,
ouais, c'est la merde.
Bah là, ils font le A qui connaissent sur les autres réseaux et ils font genre ah, ça marche pas.
Là, j'ai l'eczéma sur ses mains et fait devoir recréer toute sa communauté sur un réseau.
Non, et il y a plein de cas où on voit les fails de A, il y en a plein sur Instagram. Au début, il y en avait plein quand ils avaient pas encore la suggestion là quand tu.
Mais moi, le problème que j'aurais par rapport à ça, Sylvain, c'est que ton pseudo ressemble de plus en plus à un mot de passe en fait, et que moi, je m'en souviendrai pas, je pense.
Tu vois. Sur Snapchat, c'est quoi déjà? J'ai mis des zéros, des O, tu vois.
C'est vrai, bordel. Ouais, ça peut être chiant.
Je me suis toujours demandé, mais qui, tu sais, je sais pas, que tu t'arrives pas à te loguer sur un site, il y a marqué mot de passe oublié ou pseudo oublié. Je me dis, mais qui peut oublier son pseudo?
En fait,
c'est,
voilà.
C'est des mecs qui ont mis des zéros ou des cas composés.
Des underscores, ouais.
Et ça me permet donc d'attaquer cette dernière partie. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce fameux pseudo unique dont Mélissa a parlé, dont certaines personnes aussi ont parlé? C'est une sorte de sujet qui revient un peu régulièrement. Est-ce qu'on devrait avoir ce qu'on appelle un handle universel? À un moment, on te dit, je choisis un handle qui peut être un mélange de mots et de chiffres pour que ce soit vraiment unique, mais qu'il soit mémorisable, comme un numéro de téléphone, mais qui fait, voilà, je veux parler avec Daz sur Skype, je veux l'appeler au téléphone, je veux lui envoyer un mail, quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est @DazJDM. Est-ce que vous seriez pour ce truc-là? Si c'était faisable, parce qu'effectivement, Mélissa nous a dit que ce serait effectivement pas faisable, mais si ça l'était, Fibre.
Alors, ça existe déjà, c'est le numéro de sécu. On a tous un numéro de sécu
c'est
différent.
C'est la version 2.0.
Je termine ma phrase.
Hashtag je termine ma phrase.
La colère froide.
Mais c'est d'une part, c'est nul parce que Internet, il est régi sur la règle du premier arrivé, premier servi. Ouais. Et c'est une règle qui ne résout pas le problème des cybersquatteurs dont se plaignait Mélissa, mais qui la résout quand même un petit peu parce que pour squatter tous les pseudos du monde entier, il faut quand même beaucoup de budget.
Ouais.
Donc ça s'autorégule. Donc c'est plutôt quelque chose qui, on va dire, c'est la moins pire des solutions. Et il y a ce problème, effectivement, du handle unique rêvé par Mélissa dans un monde fasciste.
Je le rêve pas du tout.
Voilà. Qui pose le problème du, je veux un moment disparaître, c'est tout. Je veux dire, voilà, je veux changer de vie, d'identité. Je veux avoir l'avantage du pseudonyme, c'est-à-dire, je n'ai pas mon vrai nom et j'ai ce masque, je veux changer.
D'accord. Donc pour toi, le pseudonyme universel tue le principe du pseudonyme. Voilà. En fait. Très bien. Mais ça, attends, Fibre, tu l'autorises à parler ou pas?
Oui, ben non, elle peut faire ce qu'elle veut.
Non, c'est quand même celui qui a le plus de pseudo uniques autour de la table.
J'ai
quoi.
Osé les avouer, mais bon, je suis certain que. Voilà,
oui, mais fibrotique, c'est quand même un truc où t'es partout fibrotique, quoi. Jusqu'à l'email, alors que nous, on a tous un mail à notre nom. Enfin bref. Non, c'est moi, j'en rêve pas du tout hein, de ce pseudo universel, parce que ça veut dire que à la limite,
c'est la fausse bonne idée en fait.
Bah bien sûr. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui rêvent de ça, de stalkers qui rêvent de ça, mais faudrait pouvoir désactiver tous les trucs. Et moi, en plus, la preuve, c'est que j'ai créé quand même un compte Twitter privé.
Ouais. Ah, t'as un compte Twitter privé?
Mais oui. On en a déjà parlé. Mais que j'alimente plus du tout, mais à une époque j'avais vraiment envie de parler mes trucs de vie privée, c'était il y a 3 ans je crois, et j'avais créé un autre truc justement pas pour que les gens me retrouvent.
It's Mélissa B.
Hello, it's
c'était
Mélissa
pas ça.
Et maintenant c'est sur Snap.
Ouais.
Avec ses 20 followers, on a compris, suivez-la bordel. Là,
Mélissa Benoît,
mais non,
accroché.
Mais suivez pas, je suis trop contente.
Sissou, Alfcast.
Moi je suis pour.
Oui.
Si c'est facultatif et réversible. C'est-à-dire que moi, je serais...
Même ce serait trop le bordel, en fait.
Voilà, je serais prêt à mettre en place un identifiant unique pour Sylvain Palais.
Ouais.
Pour que les gens, en tapant mon identifiant, ils puissent avoir...
tous les médias sur lesquels ils peuvent te rejoindre.
Voilà.
Voilà.
Mais que si j'ai envie de l'annuler demain, je le fais. Et que si je veux créer des pseudos à côté, je peux le faire aussi. Sans
alors, on modère un peu. Genre, tu peux pas... ça doit être une fois tous les 6 mois, peut-être, non? Sinon, ce serait le bordel.
Le centre mou, quoi.
Ouais, mais c'est le bordel.
L'indécision,
réponse de Normand, quoi.
Voilà, exactement.
Voilà. Et toi, Daz, pour finir.
Non, moi, je trouve que c'est cool de, enfin, tu sais, c'est comme les marques sur un mur quand tu grandis. Je trouve que garder, enfin, avoir la possibilité d'avoir plein de pseudos, ça permet de voir ton évolution à travers les âges.
Oh.
Voilà, comme c'est beau.
Hein, monsieur Lame.
Ah oui. Mais ouais, moi, j'étais très content d'avoir monsieur Lame parce que c'était très original à l'époque des gamers où justement tout le monde s'appelait Neo ou Killer Sniper. Puis tu dis, ah, monsieur Lame, c'est cool, ça fait un peu ancien. Et puis a débarqué monsieur Dream, monsieur, enfin, il y a une mode.
Monsieur Poulpe.
Non, mais Mélissa parlait de toutes les modes de pseudo qu'il y a eu, et à un moment, il y a eu un mouvement des monsieur.
Ouais.
Je sais pas pourquoi. Et donc, évidemment, le gros snob hipster que je suis s'est senti un peu seul.
Bon, t'auras mis quand même 67 ans pour te barrer, hein.
C'est vrai.
Parce que là, tu crains un petit peu, mais c'est tout récent, lamua.com.
C'est vrai.
Ouais, mais parce qu'effectivement, en plus, je crois que j'étais sûr que les gens comprenaient que Lame, c'était mon prénom. En fait, personne comprenait que Lame, c'était mon prénom. Et pour les gens, monsieur Lame, c'est en un mot. Bref. Donc, c'était un échec total, là. En tout cas, ça me permet de rebondir. Merci Daz pour cette perche que tu me lances. Ça me permet de transitionner sur cette fin de débat et sur la discussion qu'on aura sur le forum. On vous promet, parce qu'on va chasser, on va faire la promo du forum, on va mettre sur le forum notre historique. On va faire une petite frise de tous les pseudos qu'on a utilisés, même les plus honteux. Hein. Oh. Promis, les garçons et les filles. Moi, j'en ai des pas mal. Hein.
Moi, j'en ai, ils sont super fragiles. Quoi.
Donc, on fera le nom...
Super fragile.
C'est hyper fragile.
On mettra le pseudo, pour quel réseau, pour quelle utilisation. Et on espère que vous viendrez aussi et que vous nous dévoilerez votre petite frise chronologique des pseudos. Espérons que ce sera la plus honteuse. Je pense qu'il y a de quoi rigoler très fort. Allez, on attaque tout de suite la troisième FAQ.
FAQ.
Notre troisième FAQ est posée par Nicolas Alpache. At Nicolas Alpache sur Twitter. C'est un mec bien. Il a réussi à trouver le truc parfait. C'est une FAQ un peu différente qui va un peu nous aérer l'esprit par rapport au reste. Il nous demande, avez-vous totalement délaissé vos appareils photo? Argentique, numérique, le réflexe, les lomos, les compacts, au profit de l'appareil photo de votre smartphone. On en avait parlé il y a longtemps. Est-ce que la tendance s'est accentuée avec le temps ou pas?
Tout à fait.
Daz, qui lève la main comme fibre. Fibre, tu autorises Daz à parler ou pas?
Alors, j'étais un peu cassant auprès de Mélissa, je m'en excuse. Mais je voulais pas te déconcentrer. Quand des fois, je perds mes idées. Vas-y, Daz.
Ah, c'est gentil. Oui. Moi, j'ai jamais eu de réflexe numérique de professionnel. J'ai un petit bridge là, et je l'utilise jamais en fait, concrètement.
D'accord.
Voilà, donc moi c'est 100% avec l'APN du téléphone.
Mélissa.
Alors j'ai eu une période où j'achetais plein d'appareils photo.
Mélissa Bruno, photographe.
Ah, quelle belle tendance de pseudo sur Facebook.
Ça aussi, ouais.
Photographe officiel.
Les sites de portfolio, il y avait beaucoup ça. J'en achetais plein, des petits, des gros. Enfin, non, j'ai eu un plus gros, un réflexe. Et j'ai tout revendu les uns après les autres.
D'accord.
Je pense qu'il m'en reste un, mais il marche pas, donc je peux pas le revendre.
Donc c'était
le
fantasme de dire j'ai un super appareil, mais comme beaucoup de gens à la fin.
Voilà, mais je m'en suis pas mal servi, mais un an. Après, j'ai eu un bridge qui était plus facile à transporter parce que je me dis quand même, je trouve que l'iPhone c'est quand même hyper efficace. Et après, quand l'iPhone a vraiment eu un appareil cool, j'ai plus que ça, quoi.
Ouais.
Parce que j'ai fait des vacances où j'avais les deux et je me disais, mais qu'est-ce que tu fais?
Je crois que l'iPhone 4 ou l'iPhone 4S, ça a été un vrai.
Game changer.
Un vrai game changer. Sylvain?
Moi, mes dernières vacances en Laponie, j'ai presque pas sorti mon réflexe. Mais je crois que c'est parce qu'il faisait très froid. Et j'ai pratiquement utilisé que mon smartphone. Mais l'année d'avant en Islande, j'avais beaucoup utilisé mon réflexe, donc je sais pas encore. Il faut que je parte encore en vacances pour te dire.
D'accord. Mais pars en vacances.
Je testerai pour
avoir la réponse, bien sûr.
Je testerai pour vous.
Merci de te sacrifier. Et toi, Fibre?
J'ai toujours été hyper angoissé par les appareils photo.
Par la vie en général, non?
Ouais, mais par les appareils photo en particulier, parce qu'étant très radin.
Oui.
Je trouvais ça insupportable l'idée de devoir payer pour avoir une photo. Tu veux dire, tu te fais payer pour développer des photos et c'était cher en plus. Voilà. Donc, j'ai jamais eu ce type d'appareil très onéreux. Et d'ailleurs, j'ai jamais été intéressé par la photo. Jusqu'à la découverte, oui, hashtag Slate, jusqu'à la découverte d'Instagram.
Ouais.
Et je dois dire que Instagram, c'est un peu comme si j'étais aveugle et tout d'un coup, j'ai ouvert les yeux.
Ouais.
Parce que Instagram, il y avait cette idée d'avoir des likes, comme sur Twitter, des retweets. Et je me suis mis à regarder le monde et j'ai trouvé le monde très beau. Voilà.
Oh,
et c'est magnifique et je dois beaucoup à Instagram pour ça. Avant, j'aurais pas trouvé de l'intérêt ni de regarder le monde ni de le photographier.
Mais est-ce que Instagram te donnera envie de faire des meilleures photos avec un autre appareil ou tu restes quand même c'est bien ce que tu utilises ton smartphone?
Il y a tellement de gens qui aiment la photographie, qui font ça très bien et qui sont dans un univers très particulier, je leur laisse. Voilà. Moi j'ai pas de bons yeux, je suis dans mon petit univers, ça me suffit.
Très bien. Donc on est à 3 réponses et demie en faveur 100% du smartphone.
Faut que tu répondes aussi Lame. Ah. T'es un peu le plus concerné par cette question quoi. Ouais.
Pour la photo de tous les jours, c'est vraiment très dur de concurrencer le téléphone. Et effectivement, pour moi, le plus gros souci, mais en fait, c'est pas tant la performance des smartphones que la taille des écrans qui a changé. C'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes ta photo de smartphone sur un écran 24 pouces à 100%, c'est pas glorieux, en fait. En vrai, c'est pas glorieux. Mais sur des écrans avec une densité de pixels gigantesque dans 5 pouces de diagonale, toutes les photos sont vraiment, vraiment arrangées, quoi. Donc effectivement, pour la photo tous les jours, c'est très dur. Mais partir en voyage avec un vrai appareil, là, je suis en train de travailler sur des photos que j'ai faites et tout, pour l'instant, c'est un autre monde. Mais effectivement, tu rentres ta journée, t'as les épaules rouges, t'as mal aux côtes parce que l'appareil a tapé dessus toute la journée. Ça se comprend. Mais je pense qu'il y a quand même, il y a encore des belles choses à faire avec cet appareil. Soyez courageux. Allez, tout de suite, la troisième chronique.
Sujet numéro 3.
À deux startups, si t'as pas posté sur Medium, t'as raté ta vie.
Ça va, Jacques Séguéla?
Tout à fait.
Sissou Séguéla?
Oui, je ne suis pas vieux. Je vais vous parler de Medium, moi, aujourd'hui.
Medium, ce fameux site de blogging.
Tout à fait. Vous connaissez tous Medium?
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas.
Pour ceux qui ne connaissent pas. Parce qu'il y a, des personnes qui ne connaissent pas. C'est une plateforme de blogging hyper simple, qui a un peu posé, depuis quelques années, les canons de à quoi doit ressembler un article sur Internet aujourd'hui. Pour info, Medium a été créé par un type qui s'appelle Evan Williams, qui avait aussi cofondé Twitter.
Oh, la belle histoire.
Oui, la belle histoire. Au début, la plateforme était réservée à des VIP, à ses copains, en fait.
Ce que tu nous décrivais plutôt dans l'émission, en fait. L'intelligentsia.
Voilà, c'est ça. Loïc Lemaire et, et son pote Jack Dorsey, etc.
Une petite pause.
Et donc, il y avait un délire.
On se rappelle juste de Loïc Lemaire au festival Further Future.
Avec son chapeau en forme de raton laveur et ses lunettes vertes.
Je pense que ce sera un des smileys custom du forum très vite.
C'est clair.
Retour à ta chronique, Sylvain.
Donc réservé à des VIP avec un délire de cooptation où les potes invitent les potes, etc. Donc on peut voir Medium comme une plateforme de blogging très quali, pour dire comme les communicants, avec une sélection de posts réalisée par des curators, etc. C'était une bonne idée. C'était. Parenthèse drôle, Evan Williams, avant Twitter, il avait créé une application de podcast qui s'appelait Odeo.
Non,
je te jure, vraie histoire.
Trop en avance.
Donc Medium, fond blanc, une seule colonne, des très grandes marges, un corps de texte de taille énorme, des titres H1 et H2 de taille que je qualifierais de gigantesque, des grandes images pleine largeur, des blocs de citations avec des guillemets géants. Bref, à l'opposé de la nomenclature de vos rapports de stage, Arial 12 justifié, ou des principaux sites médias, pub, titre de l'article, pub, chapeau, pub, début de l'article, je ne travaille plus au Monde. Medium, ça ressemble donc à un téléphone pour les personnes âgées, avec des grandes touches pour taper 112. Et c'est toute la mission de ce service. S'il restait des personnes qui n'arrivaient pas à utiliser Word ou WordPress, il en reste, bah là on peut dire que c'est bon. N'importe quel Pékin, n'importe quelle grand-mère a les outils pour délivrer sa science au World Wide Web. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je ne sais pas. Pourquoi c'est si peu connu encore? Parce que Medium reste pour l'instant assez sclérosé dans le milieu si original et intéressant des entrepreneurs du web.
Hey.
Pour les nostalgiques de l'ère blogging, justement cette époque, Loïc Lemaire, 2020, etc., qui seraient passés à côté de Medium, franchement, vous allez y retrouver vos petits. Et ceux qui commencent à s'emmerder sur LinkedIn, ben franchement, c'est un LinkedIn +++. Donc, pour vous prouver tout ça, une LinkedIn +++. Pour vous prouver tout ça, je vous fais une rapide typologie en 3 points des articles qu'on trouve sur Medium. Vous allez très vite comprendre. Petite dédicace à Henri Michel et son top 10 des reviews de Twitter, dont c'est bientôt l'anniversaire, donc il faudra reposter ce lien qu'on poste depuis 5 ans. Petit 1, le chômeur qui se laisse pas abattre. Le mec s'est fait virer de sa boîte et il nous dit pourquoi ça a été la meilleure décision de sa vie. Voyez le paradoxe déjà.
C'était pas sa décision. Ouais.
C'était pas sa décision, mais bon, il le dit quand même. Pas facile de se faire remercier. Hein. Ça donne pas une image sociale hyper valorisante dans notre société du travail. Alors la plupart du temps, on essaye de le cacher, de pas trop le dire. Eh ben non, car comme vous le savez,
fact, les Chinois utilisent le même mot pour dire crise et opportunité. Lorsque vous tombez, profitez-en pour refaire votre lacet.
Exactement.
C'est tellement fibre ça.
Dans ce genre d'article, l'auteur va nous expliquer son hero's journey. comment tout allait bien, comment il s'est passé un élément déclencheur. D'un coup, il ne trouve plus de sens dans son travail. Il se fait virer parce qu'il ne s'entend plus avec son patron, mais il n'a jamais été aussi heureux depuis qu'il est au chômage. J'imagine que ces mecs ont tous la gueule de Vincent Lindon, des cernes et des tics, et puis ils tapent sur leur clavier en répétant « Tout va bien, si, si, tout va bien, j'écris un article médium là, tout va bien. » Bonus. Et d'ailleurs, il monte sa start-up de newsletter bi-quotidienne sur le thème des astuces de productivité. Inscrivez-vous puisqu'il a mis un lien à la fin. Pratique, fallait y penser. Transition parfaite avec mon second point, ma seconde typologie, enfin mon second type dans ma typologie, ce que j'ai appelé les productivistes. Alors Mélissa, tu vas peut-être te retrouver là-dedans. Pourquoi je me lève tous les matins à 5h40 et comment ça change tout? Surtout mon état de santé. Ou ces trois mots vont rendre toutes vos réunions 10 fois plus productives. Ou encore, découvrez ce secret qui vous fait gagner 4 heures par jour. Balèze. Je crois que c'est ceux que je déteste le plus, en fait. Pour deux raisons. Premièrement, les mecs qui écrivent ça symbolisent tous les dérapages du capitalisme et du travail à outrance. Ensuite, que des mecs nous imposent leur rythme de vie avec un grand sourire sans dents parce qu'ils les ont perdus, ça me fait trop penser à Ducamp ou aux mecs qui te vendent des extracteurs de jus sur YouTube. Pour moi, c'est les pires charlatans. Bonus marrant, j'avais adoré cet article sur Medium d'un type qui disait « J'arrive pas à me lever le matin, je bois tous les soirs comme un trou, je suis le plus gros procrastinateur que la Terre ait porté, voici mes conseils pour ne rien foutre au bureau. » Ça, c'était très drôle.
La vérité ER.
La vérité ER. Et troisième type d'article Medium, le dernier, c'est peut-être celui que je préfère. Je les ai appelés les « Narcissiques ». C'est une contraction de Narcisse et de TEDx. Vous allez comprendre.
Oh, quel homme du pitch.
Les Narcissiques, ils pensent avoir eu un parcours tellement intéressant qu'ils croient sincèrement qu'ils peuvent inspirer tout le monde. Là, pour le coup, Medium devient le TED du pauvre. Attention, c'est des trucs véridiques. Hein.
TEDx Renaison.
De pizzaïolo analphabète au banc de Sciences Po, comment j'ai monté une start-up qui va faire du monde un meilleur endroit. Ou des trucs aussi ridicules que ce que j'ai appris de mon voyage en Inde pendant mon année de césure et pourquoi vous devriez faire pareil. Donc là, les auteurs enfoncent des portes ouvertes sur la notion du travail, mais genre avec une voiture bélier, sur le sens de la vie, sur l'équilibre, sur la société qui va mal. Et puis les gens qui ont su rester simples, comme ce vendeur de cigarettes indien qui gagne 30 centimes par jour à seulement 12 ans et demi. Inspirant! Philosophie bac-6, option comptoir de bar à jus. Mais mec, garde tes leçons pour toi, je suis en CDI dans une multinationale et je suis heureux, putain. Bonus, j'ai pris le top 50 des gros narcissiques et j'ai compté le nombre d'hommes blancs, beaucoup. Cet entre-soi, pour moi, il est devenu hyper gênant et surtout hyper normalisé. C'est-à-dire que comme la forme de Medium, c'est la même pour tout le monde, ouais. On a tous la même interface, et ben on a l'impression que le fond aussi, il est fait du même moule. Tout le monde veut son commentaire. So inspiring, thanks for that, dude. Il y a déjà des mèmes aux États-Unis autour de Medium à base « Oh, you should definitely write a Medium post about it ». Ou encore des recettes du type « Étape 1, créez votre start-up. Étape 2, faites faillite. Étape 3, écrivez un post sur Medium à propos de ça. Étape 4, recommencez à l'étape 1. » C'est hyper triste et énervant. Moi, j'ai l'impression de retrouver justement le mauvais blogging de 2005 et sa course aux abonnés flux RSS dont on parlait la dernière fois avec Monsieur Dream. Sauf qu'à l'époque, au moins, on pouvait mettre une bannière One Piece sur son blog, là, d'ailleurs. Au fond, ce qui m'énerve le plus, je pense, c'est que sûrement, c'est hyper facile de finir sur la home de Medium France. Franchement, la recette, elle est simple. Il suffit de raconter de la merde, comme je vous l'ai raconté au début.
Un petit coucou à nos amis de Medium France.
Bah ouais, non, mais c'est pas de leur faute, forcément. Mais c'est un mélange de jalousie de ma part, mais aussi, je pense, de déception. Parce qu'encore une fois, on nous a offert, on nous a promis, on nous a donné la possibilité de recommencer à zéro dans la création de contenu, là où les médias ont tous fini par faire du clickbait. Et devinez quoi ? Ben, on finit par faire du clickbait, mais du clickbait de start-upper. Comme si Internet, finalement, était voué à la médiocrité collective par manque d'originalité personnelle.
C'est ouais, dur.
C'est badant.
Oh là là, qu'est-ce que...
Mais ça me déçoit, parce que j'ai toujours vu Internet comme... un endroit où il y avait des très belles choses qui allaient exister, et pourtant...
Est-ce que vous êtes aussi dur et déçu, donc pas enthousiaste, on en parlait tout à l'heure dans une FAQ, que notre ami Sisu par rapport à Medium.com? Mélissa.
Alors j'ai écrit un post Medium dans ma vie, contrairement à Fibre qu'on a écrit 35.
C'est le titre du post Medium. J'ai écrit un post Medium dans ma vie, ça a changé ma vie. La méta est trop forte.
Non mais j'ai juste écrit, c'était en fait je l'ai écrit vraiment parce que je voulais pas faire ça sur mon blog, enfin j'ai plus de blog, donc un truc qui serait vraiment lié à moi. Je voulais juste un truc complètement...
À part,
mais blanc, enfin, tu vois, comme cette plateforme, enfin, un truc, tu vois, ou juste un tweet, mais hyper long. Donc, au lieu de faire une tweet story qui fait chier tout le monde, hein, disons-le, j'ai juste fait un post Medium, et comme ça, je savais que ça pouvait tourner. Et
c'est marrant, parce que d'ailleurs, le Medium, comme disait Sylvain, est fondé par le fondateur de Twitter, et c'est son opposé. C'est vraiment le texte long, justement.
Bah oui, parce que c'est ce qu'ils ont dit quand ils voulaient faire des tweets longs là de 10 000 signes, c'est juste embedder des textes comme on a des images, mais là c'est des capsules de texte comme on a déjà. Mais du coup, je pense que oui, il y a ça. Le truc, c'est que eux, en fait, ils sont en nombre. Les mecs dont ils parlent, Sylvain, ils sont en nombre, mais en vrai, il y a des perles en fait, comme sur toute plateforme de blogging, comme sur même sur Skyrock, tu vois. T'as des trucs bien, c'est juste qu'on n'a pas le temps de les trouver et que eux ils passent tellement tout leur temps à justement tout faire pour être sur la home de Medium France qu'on voit que, alors qu'en fait il y a forcément un petit ventre mou, quelque chose, tu vois, où il se passe des choses quoi.
Vous avez des noms, vous avez des stars, parce que moi sur Medium j'ai jamais lu deux fois la même personne.
Moi j'ai l'impression de jamais retrouver la même personne.
Non, c'est jamais la même personne, mais ce que tu parles comme pépite, c'est des articles ou des trucs bien. Mais le problème, c'est que pour finir sur la home de Medium France, ils regardent beaucoup l'algorithme en fait, et le nombre de recommandations, le nombre de liens entrants, etc.
C'est là où tu dis on se retrouve à l'époque où ça chassait du flux RSS, c'est du scoring en fait.
C'est le page rank de Google,
t'as quand même les stats, t'as quand même des cœurs,
Sauf qu'au lieu de faire du relatable ou des images rigolotes et des chatons, là on fait de l'inspiration du pauvre, quoi. C'est ça. Le TEDx Renaison.
C'est ça. TEDx Renaison.
Pas mal.
Dédicace au 4-2 avec vous, les gars.
Non, Jordan Del 42. Si Jordan, tu veux nous faire un 20 minutes de speech, fibre.
Plusieurs remarques, mais c'est très subjectif. Bah, c'est un peu le thème de l'émission.
depuis
3 ans.
Je trouve que Medium, il a une identité trop américaine.
Ouais.
On a vraiment l'impression, c'est très difficile pour moi d'écrire sur Medium. T'es devant la page blanche, tu commences à écrire. Parce qu'on est devant une typo, un écart, des couleurs qui sont américaines. Donc t'as l'impression de rédiger un contrat américain, en fait.
Et c'est noir sur blanc.
Et, non, c'est pas aussi simple que ça. Et,
C'est noir sur blanc.
T'as fait deux infractions à la colonne vertébrale,
mais c'est noir sur la bouche.
C'est noir sur blanc. Comment tu peux prouver que c'est pas noir sur blanc? C'est noir sur blanc.
Oui. Okay. Factuellement, c'est noir sur blanc. Mais comme l'a dit Sylvain, il y a les marges, il y a les,
gros guillemets.
Voilà, c'est des guillemets anglais, par exemple. Peu
des
importe,
côtes.
Qu'il n'y a pas sur Bepo, mais bon. donc déjà, il y a une identité.
C'est ça qu'il arrive.
Tout se recoupe tellement dans le lore 404, c'est magnifique.
Il y a une identité américaine très forte.
Ouais.
Et il y a aussi le fait que les posts flottent comme des bulles. Et t'es pas sur le blog de Daz avec tous ces articles, ces colonnes, ces liens, tout ça.
Ouais, je trouve ça très bizarre, l'ambiance.
C'est très déstructuré, tu vois.
Même l'URL des articles, c'est très bizare parce que t'as un bout de pseudo dans l'URL.
Ouais, avec un at.
C'est très bizarre.
Ouais, c'est bizarre.
Voilà. Donc, il y a des problèmes factuels de forme. Et après, il y a un problème, de communauté. C'est-à-dire que on a fait une chronique très intéressante de Sylvain sur les conspirationnistes.
Ouais.
Qui étaient fous. Et là, en fait, c'est les conspirationnistes éduqués. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont dans un délire total, dans lequel ils te disent c'est génial, faut aller en Inde, effectivement, tout ça. Alors, mais qui sont déconnectés de la réalité, ils sont sur le point de tomber en dépression totale.
Et c'est mes Vincent Lindon, ça.
Voilà. Oui. Et quand tu lis ça, tu dis je veux pas faire partie de ce club, c'est pas possible. Voilà. Et il y a les charlatans aussi, Mehdi truc et tout, etc. Voilà. Donc c'est malheureusement, il y avait tout. Il y a une facilité de mettre mise en place.
Moi, je trouve que l'outil en lui-même, il est vraiment chouette.
C'est super techno. C'est
hyper simple à utiliser.
J'ai vachement
utilisé un outil aussi simple pour éditer du texte sur Internet. Je sais pas vous, mais vraiment,
Quand tu partages un paragraphe sur Twitter, ça te crée une photo immédiatement sur Twitter pour partager le paragraphe que tu as sélectionné. Enfin, il y a plein de trucs qui font que c'est un putain d'outil.
C'est hyper optimisé.
Mais squatté par des aspirateurs.
Mais voilà, c'est intéressant
parce que on est rentré
avec nos chaussures pleines de crottes, quoi.
C'est arrivé également à Orkut, si vous vous souvenez, le Facebook de Google, je crois.
Ouais, c'est ça.
C'est un réseau social qui était racheté. Le plus populaire au Brésil.
Voilà. C'est ça, en Amérique du Sud. Ouais.
Parce qu'il avait été pris d'assaut par les Brésiliens, qui sont des gens, par contre, tout à fait sains d'esprit. Et ben malheureusement,
généralité. quelque part à René Zao, t'as Giordano Del 40.
Non mais il a pas. Il n'a pas pu se développer mondialement. Et ben là, c'est pareil. Et c'est intéressant parce que si demain on doit créer notre réseau social ou si demain on doit piloter un réseau social, il y a une règle fondamentale qui est diversité à tout prix, diversité de contenu et de contributeurs. Ouais. Sinon, c'est la mort.
Là, on est d'accord. Il y a ce côté vraiment consanguin.
Ouais, il faut tuer l'entre-soi.
Homme blanc en midlife crisis. C'est ça quoi.
Un peu. Ouais.
Daz, qu'est-ce que tu penses
Je pense que c'est très agréable de lire un long form sur Medium.
Oui.
Il y a que là-dessus que je les lis, moi.
Je pense qu'on est d'accord pour dire que la plateforme en elle-même, la manière dont ils mettent en valeur le texte, la manière dont on produit, on console le contenu est vraiment super. Ouais.
Mais après, moi, enfin, à l'inverse de Sylvain, en fait, ça m'énerve pas d'avoir un Loïc Lemaire d'outre-Atlantique. Donc Loïc Lemaire qui raconte un peu ses échecs, sa vie, machin. Je trouve ça très marrant, en fait, parce que c'est exactement ce que je veux absolument pas être. Et ouais. Je trouve ça intéressant d'avoir des gens qui te le rappellent, en fait, tous les jours. Et donc moi, je les lis, mais avec vraiment, en plus, beaucoup d'empathie, tu vois.
Ouais. Oui, mais du coup, voilà, on se crée une sorte de bulle et de filtre, un champ de distorsion de la réalité, comme disait notre ami Steve. Pour en fait ne pas rager comme Sylvain sur le
non mais en plus
la vacuité de la chose et le personal branding total.
Oui voilà, bah c'est de la branlette, mais je veux dire on est sur internet de base, on est tous en train de se branler toute la journée.
Daz le sage a parlé là, c'est vrai.
Tu lis ça comme tu regarderais une télé-réalité ou tu lirais un magazine.
Exactement comme je regarde, je peux regarder Keeping Up with the Kardashians, c'est-à-dire bah finalement toi tu le vois au troisième degré, mais n'empêche qu'au niveau des audiences t'as quand même juste regardé l'émission comme n'importe quel autre téléspectateur. Okay. Tu vois. Donc moi je les lis, mais avec tu vois le truc des voyages en Inde et tout, voilà, ça a changé ma vie, tout ça, j'adore. Ah ouais, moi je les lis, mais avec bonheur, quoi.
Oh, ben, je sens que depuis quelques émissions, il y a une sorte d'enthousiasme. Ouais,
mais non, mais il faut être bienveillant. Il faut être,
dans le hate reading quand même.
Non, mais je hate pas. C'est juste que je despise énormément. pour détester, mais, tu vois, il faut mettre les gens au même niveau.
Il despise en caressant dans le sens du poil maintenant.
Bah oui, c'est-à-dire que tu vois, je suis un peu comme Dr. Manhattan.
Non, depuis que t'es devenu papa, t'as changé.
D'ailleurs, tu parles de bienveillance, c'est le maître mot sur Medium. C'est-à-dire que c'est très mal vu de critiquer sur Medium. C'est très à l'américaine. Là, j'ai une connaissance.
Donc là, t'es d'accord avec Fibre qui disait c'est très américain.
Très américain. Là, j'ai une connaissance qui avait posté un article sur Medium, qui a eu plein de retours hyper positifs de son réseau, oh là là, c'est fantastique ce que tu racontes, etc. Il y a eu tellement de retours que Combini a repris l'article pour le cross-poster sur Combini, et là, elle s'est fait défoncer. Elle a pas compris d'où ça venait, quoi.
Donc, en dehors de la bulle TEDx,
elle s'est pris la réalité en face de la gueule, ça fait bizarre, quoi.
Il faudra une petite chronique TEDx un jour, parce que il y a pas mal d'illuminés aussi dans les TEDx, hein.
Non, mais moi, je vous le dis, hein, si TEDx, on peut acheter à l'essence, on va faire
un TEDx de qualité.
TEDx de qualité, hein. Moi, je suis chaud, hein. Un TEDx de second degré total serait absolument magnifique. Allez, en tout cas, on va vous demander, vous, chers lecteurs, de nous proposer, parce que on était tous d'accord pour dire qu'il y a aussi des très bons articles.
On est à la recherche de ça.
On cherche des très bons articles sur Medium, et donc sur le forum, on ouvrira donc maintenant, comme chaque mois, des petites sections dédiées à chaque chronique, et on vous invitera, sans second degré, sans despising à la DAS JDM, à venir partager des articles que vous aimez lire sur Medium, parce que c'est vrai que la plateforme, quand même, on va pas se mentir, il y a quand même des très belles choses à lire dessus. Allez, on attaque tout de suite la dernière FAQ. La dernière FAQ vient de notre page Facebook. Elle vient de Balak M. Balak. Donc je ne sais pas si c'est un illustrateur obsédé par les gros seins ou si c'est un homme qui te promet le retour de l'être aimé. Je pense que c'est un peu les deux. En tout cas, Balak M. Balak, qui est un auditeur fidèle de l'émission, commence par cette citation. Oh là là, mais dis donc, c'est une hécatombe 2016, pire que 2005. Oh là là. Il nous dit... Est-ce que les réseaux sociaux réintroduisent la banalité de la mortalité dans les cultures occidentales qui ont tout fait pour la tenir à l'écart?
Oh.
Et là, c'est Mélissa qui lève la main, qui fait une fibre tigre. Mélissa en pole position.
Fact.
Je répondrai par un article de Slay.
Arrêtez de me pressuriser avec tous ces lieux dits.
Je ne connais pas David Bowie, mais.
Et donc là, non, mais la réponse était parce que c'est vrai que en fait,
il y a vraiment eu un article de Slay dessus. Du coup.
Non, vraiment, ouais.
Oui, d'accord.
Parce que du coup, en fait, le ça vient un peu des audiences sur Internet. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, quand ils connaissent pas, ou même s'ils connaissent la personne qui meurt, du coup, ils lisent vachement. Ça fait vachement d'audience. Les morts, ça fait vachement d'audience.
D'accord.
Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent beaucoup de contenu sur les gens qui meurent pour dire tout ce qu'ils ont fait et tout. Et en fait, il y a vraiment avant, genre, il y a plein d'hommes politiques qu'on connaît pas, et maintenant les morts, ça fait genre des papiers et des papiers et des papiers. Maintenant, avant c'était une brève dans un journal au fin fond de la page 12, tu vois. Et ben maintenant, tu vas avoir des articles, des URL, et du coup, t'as l'impression de voir énormément de contenu sur des gens inconnus parce qu'il y a des gens qui veulent savoir et ils cliquent vachement. Et voilà.
En fait, ça crée tout de suite un choc émotionnel affectif très fort, en fait.
Ouais.
Ça.
Et sur les pushes, en fait, les pushes sur les gens des morts, en fait, quand ils sont pas très très connus, les gens les ouvrent systématiquement. Alors c'est taux d'ouverture de ouf.
Putain, voilà. Bientôt l'article sur Medium, comment mourir a changé ma vie.
Je tenais à dire que
Medium.
Chez Slate, on fait pas ça.
On écrit sur ça. Que vous faites pas.
Mais on ne fait pas ça. Quand on ne sait pas, on ne fait pas.
Arrêtez de me pressuriser avec les nécrologies.
La question, c'est est-ce qu'il y a eu plus de morts en 2016 qu'en 2015 ou...
En fait, non, il partait sur ces fameuses remarques genre, fou là là, c'est des gâteaux en 2005, c'est pire que 2015. En fait, il questionnait si est-ce que les réseaux sociaux réintroduisent la banalité de la mortalité. dans les cultures occidentales. Surtout fait pour la tenir à l'écart.
J'ai quelque chose à dire.
Donc, est-ce que sur les réseaux sociaux, la mortalité, c'est devenu une sorte de conversation, effectivement, comme des messages qui marchent bien, donc c'est un peu comme le beau temps. Alors, Sylvain, tu dois répondre vite, parce qu'à côté, il y a Philippe qui est en train de s'étouffer.
Ah, mais je réponds pas, moi je donne la parole à Fima.
Philippe, tu peux respirer.
J'ai oublié ce que je voulais dire.
Oh là là là, là. Non, mais quel petit troll.
Si, je vais vous dire, je vais vous dire. J'ai beaucoup d'amis chez les jeunes parce que je suis sur Snapchat.
Attends, mais juste la manière de le dire, t'es tellement pas jeune. Non, mais vous savez, j'ai beaucoup d'amis chez les jeunes.
Je connais beaucoup de jeunes. Donc,
non, mais
on dirait Hillary Clinton. Vous savez, j'ai beaucoup d'amis chez les jeunes.
Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, oui. Les gens qui meurent en général sont vieux.
Ouais.
Et il se trouve que les jeunes me disent souvent, mais putain, c'est qui Prince? Mais attendez, David Bowie, il a fait quoi, tu vois? Et c'est pour ça aussi que quand il y a un David Bowie en Trending Topics, quand vous cliquez vraiment sur l'hashtag, vous voyez plein de jeunes, parce qu'il y en a plein sur Twitter qui disent, mais Ozef, c'est qui? Il est passé chez lui.
Le Trending Topics, c'est je sais pas qui est David
Bowie. Voilà, je sais pas qui c'est. Et effectivement, les articles sont assez lus parce que les gens veulent se renseigner. Ils disent, c'est qui ce mec génial, soi-disant, qui est mort et que j'ai loupé, que je connais pas de ma vie du tout? Et je trouve que le business du talk des morts, c'est plutôt un truc de vieux.
Ouais.
Et c'est aussi indirectement un truc de jeunes curieux qui veulent redécouvrir le truc, mais qui sont complètement largués. Et je vivais ça un petit peu quand j'étais petit, où il y avait des vieux qui mouraient, et je me disais,
c'est vrai.
Je m'en fous, quoi.
Ah non, toi tu t'en fous, t'étais pas curieux.
Bah, c'est pas ça, mais c'était un autre univers, quoi.
Donc pour relancer votre carrière, crevez, quoi.
Je pense que le buzz autour de ça, il est pas forcément au premier degré. Je suis intéressé, Prince, ouais. Il a changé ma vie et tout.
Prince,
putain
de merde.
Ouais, pur pleurin, c'est un beau titre.
Ouais, pur pleurin, ouais.
Pur pleurin, quelle belle chanson. Sylvain.
J'ai ma réponse parce que, du coup, moi, j'ai beaucoup réfléchi pour essayer de répondre à la question de notre auditeur, ce que vous avez pas fait.
j'en ai fait un post médium.
Et, merde, je voulais dire quoi, du coup?
Fantastique. Attends,
oui, alors moi, je pense qu'effectivement, les réseaux sociaux ont réintroduit la banalité de la mort parce que, la blague, humour noir sur la mort de quelqu'un, elle arrive maintenant, mais, en 2 heures, c'est bon. On a fait le deuil.
2 heures?
Ouais, même pas.
Sans parler du petit logo.
Moins de 2 heures.
Avant que le mec soit mort. Ah, 2 heures, vous trouvez ça trop? Moins de 2 heures, ok, je suis d'accord. Combien? Une heure, combien vous dites?
Non, moi je dis moins de deux heures. C'est-à-dire, avant qu'il meure, il y a déjà le gars qui dit, alors je vous préviens.
Si lui il meurt, j'ai ça comme blague.
J'ai l'illustration aussi.
Et le petit logo de FDP aussi.
Le petit logo de FDP, le gif de toutes les coiffures de, truc, tu vois, enfin.
Les articles Slate et on en passe, c'est des meilleurs.
Donc pour moi, oui, banalité.
Eh bien moi je pense en fait que Internet a été construit par des gens qui sont plus ou moins dans notre génération à nous, trentenaire, quarantenaire, cinquantenaire.
Ah, t'es comme Fibre, t'as voulu faire un truc moderne et tout, mais t'as parlé comme un yeux.
Non, mais je suis pas du tout moderne et j'emmerde les jeunes. J'emmerde les jeunes parce que moi quand j'étais petit.
Là t'as parlé comme un yeux aussi.
Ouais, bah oui.
J'emmerde
oui.
Les jeunes.
Parce que moi quand j'étais petit, je savais ce qui se faisait.
Il a dit Daniel s'en sort dans l'émission.
Non. À un moment donné, il faut arrêter cet angélisme là. Ne pas savoir qui est Prince ou David Bowie quand t'as moins de 20 ans, c'est que t'as un gogol, c'est tout. Fin de l'histoire, c'est tout. Moi quand j'avais moins de 20 ans, je savais qui était Mireille Mathieu, tu vois, je suis pas complètement con.
Mais elle est encore vivante.
Non mais voilà, par exemple, bref. Non, en fait, ce que je pense, c'est que ce sont nos idoles à nous qui sont en train de se taper, de casser leur vélo, en fait. Et c'est oui. Surtout ça qui fait que, comme on est plus ou moins prescripteur, parce que c'est notre génération qui est la plus active sur Internet, qui l'a...
Toi, t'as jamais été sur Snapchat, toi.
Ouais. Ouais, non, mais c'est... Okay, on en parlera pas.
Oh putain, cette émission de vieux, on est vieux, là.
Sur les Twitter, c'est pour les vieux, ouais. Sur Twitter.
Mais oui, voilà, donc en fait, il faut reconnaître quand même qu'il y a eu une grosse séquence, là, sur début 2016.
Ouais.
Peut-être plus que, effectivement, en 2015. Et du coup, bah, oui, enfin, est-ce que ça la remet sur le devant de la scène dans la culture occidentale? Je pense qu'il y a toujours eu des nécros au journal de 20h et
ouais,
ça change
là,
pas trop.
Parce que les nécros, comme on dit, il y avait des blagues, les hommages, les machins, les curieux.
C'est juste que
avant, comme disait.
Quand tu vois le truc au 20h, toi, tu fais des blagues devant ta télé. C'est juste que maintenant, tu peux les poster. Donc.
D'accord, ok, très bien. Ben écoute, Balak M. Balak, on ne sait pas si on aura répondu à ta question sur la
très bonne question, Balak. Hein.
Mais on aura pris un gros coup de vieux. Allez, on attaque tout de suite la dernière chronique avec Tati Daniel, aka Das JDM.
Sujet numéro 4.
Comment le gagne-petit est devenu notre grand hobby?
Alors Tati Daniel, on va parler du gagne-petit?
Eh oui, je vais pisser sur vos couvertures. C'est ça qu'elle fait Tati Daniel, non?
Je sais plus. Je crois qu'elle mange de la pâtée pour chien, c'est très dur.
Ah ouais, putain,
c'est un moment dur du film.
C'était compliqué. Il est 2h du matin, devant son écran, Vincent, le prénom a été changé pour préserver son identité, fait le point sur son business. Depuis 2 ans, la même routine rythme les journées de Vincent. L'achat en gros, la découpe, la revente au détail, la préparation des sachets, la recherche du Yanclar, les transactions de la main à la main dans la rue. Vous l'avez compris en écoutant cette description, Vincent est un dealer.
Et force est de constater que ces dernières années, le business des touches de clavier ne s'est jamais aussi bien porté. Attendez, vous avez cru qu'on allait parler de drogue, de Thor et autres Darknet. Mais nous, à 404, on laisse ça à Cache Investigation. Parce que la France veut savoir, Élise Bessel, la France veut savoir. On est déjà au next level, nous, à 404. Car Vincent donc deal les touches de clavier, Logitech notamment.
C'est une histoire vraie. Hein,
c'est une histoire vraie, c'est une histoire vraie. Les go-fast effectués dans les brocantes de la Petite Couronne et la rue Montgallet lui permettent d'investir un espace laissé vierge par des constructeurs qui vendent des claviers premium à plus de 100 euros, mais sans aucune possibilité pour les clients d'acheter les touches à l'unité en cas de besoin. Je trouvais ça très con, et Vincent aussi, surtout après que sa touche échappe et décidé de clamser dans des conditions qui, même aujourd'hui, restent assez mystérieuses. Devant son clavier mutilé, Vincent s'est refusé à faire ce que la société attendait de lui, le jeter. Et il a décidé de le réparer en cherchant le même modèle de clavier hors service, vendu pour pièces sur Internet. Et là, la révélation, il y a de l'argent facile à se faire. C'est légal, tout le monde y gagne, et tant que les constructeurs continuent à ne rien comprendre à la vie, la manne est infinie. Seul petit dodane sur la route du succès, les transactions moyennes tournent autour des 5 euros. 10 euros pour une barre espace de K800 rétroéclairé de BG.
Ça reste extrêmement cher.
Bah, 10 euros la touche...
C'est très cher, 10 euros la touche.
Putain, t'es vraiment un crevard. On va parler de toi vers la fin. Devant mon scepticisme quant à l'intérêt de se prendre la tête à donner des rendez-vous devant la Fnac du CNIT sur sa pause-déj pour la modique somme de 5 euros, Vincent, telle une adolescente de 15 ans qui explique à ses parents qu'elle arrête ses études pour devenir joueuse de djembé itinérante, m'a répondu que je ne comprenais rien. C'est pas ma faute à moi, hein. L'âme vous le répète, je suis old school. Pour moins de 30 euros sur une transac, je sors pas de mon lit. Pourtant, ces montants ridicules sont une constante dans cette économie des gains petits. Alors que des startups se font racheter pour des sommes indécentes du côté de la Silicon Valley, des centaines de milliers de personnes s'échangent des objets ou des services pour des sommes ridicules qui ne seraient même pas envisagées dans un monde classique de petites annonces publiées dans la presse spécialisée. Alors on passe aux brocantes forcément,
bah oui.
Il est désormais entendu que 80% des gens confondent brocante et sortie de poubelle. Sur une brocante, des gens souvent bien sous tout rapport le reste de la semaine perdent toute dignité pour un rabais de 50 centimes sur une veste Tommy Hilfiger vendue 5 euros, c'est du vécu. Sur une brocante, des gens qui achètent une PlayStation et 12 jeux pour 2 euros ne se sentent pas ridicules quand ils demandent de tester pour voir si elle s'allume. C'est du vécu aussi. Je pensais cet esprit de mongolo se limiter à quelques dimanches par an dans les villes de France, mais maintenant ça nous poursuit même la semaine lors de nos errances sur les internets. Et là je sais que certains vont me dire « bah oui, mais c'est depuis l'arrivée du Bon Coin, blablabla, blabliblu ». Mais non, le Bon Coin, ça a simplement répondu à la demande de pouvoir vendre et acheter des trucs sans passer par l'inscription et les enchères à la eBay.
Ouais. C'est
parfaitement relou d'ailleurs, les enchères à la eBay. Dessus, on trouve bien des annonces à 3 euros, ok, mais juste en dessous, il y a une Tesla Model S P85D à 95 000 euros. Donc, Non, la spécialisation dans les échanges de biens et de services uniquement pour des montants indécents, mais dans la tranche basse hein, de l'indécence,
bah oui.
C'est bien plus récent. D'abord nommé économie du partage, avec les trocs de train, blablacar et autres, on s'oriente maintenant vers un mode que les Américains nomment la gig economy.
La gig economy.
Ouais, l'économie des petits boulots. Ouais. Le Vincent dont je vous parlais au début de cette chronique, en fait, c'est Tony Montana en version USB. Comme Drake, il start from the bottom, et peut-être qu'un jour, il contemplera Chennevières-sur-Marne depuis son penthouse au sommet de son building de 6 étages. Mais les sites comme 5euros.com, version française du célèbre Fiverr, autoproclamé leader mondial des marketplaces à 5$, ou des sites comme TaskRabbit, qui réhabilite l'asservissement consentant pour l'exécution des bases d'œuvres, eux, c'est moins les petits boulots que la paresse authentique et l'absence totale de race qui a permis leur émergence. On arrive doucement au monde idéal imaginé par Fibre Tigre dans son programme de droite dure du futur. Un monde où tout le monde devient freelance. Freelance à 5 balles. Faut quand même être au bout du rouleau pour se lancer dans ce traquenard. J'ai beau chercher la raison, impossible de la trouver. On parle de revenus d'appoint, d'arrondir les fins de mois, mais à 5 euros le job, les fins de mois vont continuer à être rectangulaires pendant encore pas mal de temps. Ou alors c'est peut-être le plaisir de produire un truc qui sera pas jugé durement parce que oh ça va, 5 euros quoi, merde. Hein.
Le logo à 5 euros.
Génération fragile. Ouais, le logo à 5 euros. Ouais. Vous vous souvenez des « excusez-moi, il y a un minimum pour la CB » ou encore du « je vais quand même pas faire une carte pour si peu » qu'on sortait il y a pas si longtemps.
Ouais.
Bah, sur Internet, où on passe de plus en plus des commandes Amazon à 5,70 € sans pression, ils se sont envolés en même temps que le respect.
Oh, merci Tati Daniel.
Merci Tati.
À votre service. J'ai fait pipi sur le tapis.
L'économie est l'ancienne. Parce que je sais qu'il y a des enthousiastes de l'économie, justement, comme tu dis, du partage, de l'appoint, des petits jobs, des petits services.
Non, mais le partage, c'est le troc.
Oui.
Par contre, à partir du moment où tu te fais payer 5 balles, c'est que tu sais pas te vendre.
Est-ce que vous êtes d'accord avec Daz?
Ah, moitié Fibre. Oui, à moitié.
Alors, non, Fibre vas-y, ou Sylvain?
J'ai plusieurs remarques comme d'habitude.
Alors, vas-y, petit point.
Est-ce que ton programme de droit dur du futur, il s'est reconnu là-dedans? Dans une relation client,
tout le monde freelance.
J'ai d'abord fait mes remarques. Alors, d'abord, il y a effectivement quelque chose de très français dans la débrouille. Je revends mon truc sur eBay que j'ai pas utilisé, même si je le revends 1 euro de moins, enfin, je fais un bénéfice 1 euro, je le fais quand même, je suis content, j'ai fait mon petit truc. Ça, c'est très français, je trouve.
D'accord.
Deuxième point, faut pas oublier qu'on est quand même dans un marché mondialisé, donc, par exemple, en province, le niveau de vie n'est pas pareil qu'à Paris. Mais de ça, c'était un petit
oh, quel formidable coup d'épaule dans cette porte grande ouverte.
Non, mais.
C'est bien quand on parle de mondialisation pour dire,
j'ai vu passer Fibre comme un.
On est sur un marché mondialisé,
alors
on parle de la province.
Non, allez, vraie anecdote, j'étais en Serbie.
Ouais. Et, oh là, ouais.
Et non, et j'ai un pote serbo-croate qui s'appelle Darko. Salut Darko. Il fait des jeux sous Flash.
C'est un pseudo, c'est son vrai prénom.
Il fait des jeux sous Flash. Il a 19 ans. Et le mec, il gagne entre 400 et 500 euros par mois, tu vois. Ouais. Et j'ai eu hyper pitié, je l'ai invité au restaurant, tout ça. Et en fait, le SMIC là-bas, c'est 300 euros. Donc, le mec était vraiment hyper à l'aise, en fait, hyper heureux dans ses baskets, et il gagnait même de l'argent, il la mettait de côté et tout, il était content. Donc, c'est très relatif, tout ça.
C'est relatif, c'est vrai.
Et, pour aller plus loin dans cette idée-là, donc, sur Fiverr, on peut avoir son logo d'entreprise pour 5 euros.
On rappelle que Fiverr, donc, ça vient de Five, parce que tout est basé à 5 dollars le service.
Et c'est aussi un jeu de mots avec Fiverr. Fais-moi une Fiverr, voilà. Et donc vous pouvez acheter un logo, vous dites voilà, moi je monte qualité et je veux un logo, et vous donnez 5 dollars et vous l'avez. Et il faut voir que les gens, non seulement ils vous font un logo, mais derrière ils rachètent un template fait, je sais pas, en Chine par des mecs encore moins chers à 1 euro, donc ils font que 4 euros de marge.
Donc en fait, des mecs sont même pas des crevards, c'est des intermédiaires crevards.
Oui, ouais, mais c'est exactement comme les mecs qui vendent des jeans qui sont faits en Chine et puis après ils sont retravaillés un petit peu en Israël et puis après ils rajoutent une étiquette en Allemagne et finalement ils sont à 250 euros à Paris, tu vois. Ils rajoutent de la valeur ajoutée, mais leur marge et le temps qu'ils y consacrent, parce que c'est très automatisé. Ils sont, et le pays dans lequel ils vivent, parce que c'est peut-être à Bangkok, ils sont peut-être super contents, c'est tout.
Pas bête.
Donc c'est du néocolonialisme à pleine balle, en fait.
Ah oui, c'est de la mondialisation à pleine balle, peut-être. On a peut-être trouvé les vrais bénéficiaires de Fiverr.
Mais je suis pas sûr, hein. Enfin, sur TaskRabbit, j'ai pas l'impression qu'il y a que des Bengalais qui viennent te monter ton
armoire IKEA. Non, je pense que t'as un mec qui parle comme toi, qui est super, mais qui après se tourne vers des Bengalais. À voir. Sylvain.
Pour abonder dans le sens de Fibre,
oui.
Effectivement, tout est relatif.
Oh, merci les gars, encore une porte automatique.
C'est bon, c'est tout. Non, TaskRabbit aux États-Unis. Je te rappelle que quand tu as 60 piges aux États-Unis et que tu peux plus travailler parce que les entreprises te trouvent trop vieux, t'as pas forcément une retraite en fait. C'est pas comme en France. T'as pas forcément une sécurité sociale. Donc, aller monter des meubles IKEA pour 15 balles. Si t'as que ça à faire de tes journées, moi je trouve que ça va.
TaskRabbit, à la fin de la journée. On n'a pas dit ce que c'était. Fiverr, c'est une marketplace à 5 dollars de services de type.
TaskRabbit, c'est un marketplace qui permet en fait de remettre en esclavage des gens pour des boulots à très faible valeur. Okay. Écoutez, on va pas se mentir.
Task et Rabbit, parce qu'en audio ça passe pas bien. C'est task pour tâche et pour Rabbit tâche, parce que c'est un lapin, c'est vite fait quoi.
Voilà. Okay. Et les utilisateurs.
Parce que les lapins sont culs, en fait.
On les appelle les super rabbits. Et en fait, c'est tu sais pas monter un meuble IKEA, tes courses elles sont trop lourdes, t'as pas d'ascenseur, il faut faire le ménage après.
Et donc t'appelles un papy de 62 ans, normal.
Voilà, pour monter ton meuble, ça passe.
Tout va bien.
D'accord. Et toi, t'es plus favorable à ça, parce que tu dis qu'effectivement, comme disait Fibre, il y a des gens qui en bénéficient vraiment.
Exactement.
Toi, tu trouves aussi qu'il y a des gens qui en bénéficient vraiment, mais c'est pas forcément glorieux.
C'est pas forcément glorieux, mais je pense que contrairement à ce que tu penses, ça peut les aider à arrondir les fins de mois.
Et puis c'est du black, les mecs.
Quand ils ont pas le système qu'on peut avoir en France. Mélissa, tu veux me dire un truc?
Mélissa.
Non, mais surtout, j'ai le cas d'une personne dans mon entourage qui fait ça pour Hitch. Donc,
alors, Hitch, c'est quoi, Mélissa?
C'est un service de.
De covoiturage.
De covoiturage.
Ou de VTC masqué.
Ou des,
en fait,
voilà, hein. Où des particuliers peuvent emmener d'autres particuliers.
D'accord.
Et la particularité de ça, c'est que Hitch. T'as un prix de la course, mais que le client est libre de payer ce prix ou de payer en dessous.
Voilà.
Ou plus. Parce qu'après tout, c'est du covoiturage.
Donc là, t'as l'impression que tu gagnes pas ta vie, sauf que cette personne, en l'occurrence, gagne, enfin, vraiment un revenu d'appoint. Après, il y a un maximum, tu peux pas faire plus d'un maximum.
D'accord.
Parce que sinon, c'est vraiment une activité professionnelle.
Okay. Est-ce qu'elle peut, comme dit Daz, arrondir ses fins de mois,
mais
est-ce que ses fins de mois
resteraient régulières? Clairement, c'est ça. C'est genre, ça.
On parle de combien?
Bah, en l'occurrence, sur une année, parce qu'il y a un seuil, j'arrive plus à, c'est en milliers d'euros, mais j'arrive plus à savoir
quel est.
Attends, non, on parle de rendir sa fin de mois, oui, Mélissa.
Et là, en un an, de fait, il a fait, à mon avis, entre, j'ai pas le montant exact, donc je veux pas dire de conneries, mais c'est vraiment, c'est pas 1000 euros, c'est pas 2000 euros, c'est pas 3000 euros, c'est plus de ça, mais c'est moins de 10 000 euros, clairement. Mais c'est une grosse somme, quoi. C'est, quand
d'accord.
tu gagnes pas beaucoup, ça, il a un petit salaire, il a pas le SMIC, mais il a plus que le SMIC. Quand t'as un petit salaire, clairement, ça augmente.
Ça met du beurre dans les épinards. Surtout donc, que c'est au black aussi, du coup.
Bah, c'est pas déclaré. Oui.
D'accord.
Évidemment.
Bah oui, bah attends, il y a quelques milliers d'euros.
Mais c'est pour ça que Sylvain abonde dans le sens de fibrotique, parce que Sylvain lui aussi fait de la sous-location avec Airbnb. Bon, ben voilà.
Oui,
non,
oui.
Mais de base, vous êtes tous, vous violez la loi française.
Mais non,
vous
voulez pas du tout.
Non, parce qu'Airbnb, tu déclare.
Je vais d'une part te contredire pour te montrer que tu as tort. Et ensuite, j'abonderai dans ton sens sur ta chronique.
Oh, c'est gentil, le coup de poing caresse.
Première chose, le coup de poing caresse.
Bad cop d'abord.
Voilà, c'est clash contre clash. Première chose, quand tu loues sur Airbnb, tu peux tout à fait le faire en sous-location si tu ne le sous-loues pas plus cher que ton loyer, si tu ne fais pas de bénéfice. C'est ce que je réalise, personnellement. Première chose. Seconde chose, moi je suis pour aider des gens qui sont dans le besoin à trouver des petits jobs comme ça, même si c'est 5 euros par-ci, 5 euros par-là, c'est de la débrouille, c'est un truc très français, fibre à raison. Moi ce que je supporte pas, c'est qu'on fasse passer ça pour du freelancing ou de l'entrepreneuriat, comme on le fait avec les coursiers à vélo.
C'est le cas.
Les Deliveroo, les Take It Easy, etc., etc.
On est d'accord que le wording sur ces sites-là, c'est pas du tout...
Ça c'est de la précarisation, voilà. C'est pas aider les gens à s'en sortir. Voilà.
Sylvain, d'ailleurs, toi tu as un moment pensé... Parce que Sylvain, tu es freelance.
Tout à fait.
Tu as pensé à justement être livreur Deliveroo.
Ouais.
Enfin, livreur pour un service genre Foodora, Take It Easy.
Parce que je voulais faire un article gonzo de l'intérieur sur mon.
Ah oui, donc toi, c'est pas du tout pour en dire tes fins de mois.
Ah
toi,
bah non, pas du tout, non.
Toi, t'es sort bourgeois, en fait.
Oui, oui, bien sûr.
Fibre.
J'aimerais ajouter que dès qu'il y a une entreprise qui propose à un graphiste de faire un logo gratuitement.
Ce qu'on va bientôt faire pour qualité.
Voilà, voilà. Twitter, qui est composé à 90% de graphistes, s'enflamme en disant ah, honte sur lui et tout, etc. Mais dès qu'on le paye au moins 1 euro. Quand franchit la barrière du payant, eh ben ça passe plutôt bien, je trouve.
Ah, je suis pas sûr, tu vas voir.
Je suis pas sûr non plus.
J'ai un type que tu prennes notre compte Twitter pour dire on voudrait
un logo pour un euro.
Parce que les graphistes se sont plaints pendant longtemps justement des gens qui dont c'était pas le métier principal et qui du coup cassaient le marché. Donc
Non mais j'ai vu les logos.
Tu parlerais pas des taxis là, Dan, en fait.
Bah c'est un peu ça en fait.
Non mais pour être franc, les logos sur Fiverr sont très moches. C'est vraiment,
bah heureusement. D'ailleurs, il y a notre collègue et ami et muse Henri Michel qui était passé par un service de petit service et de gain petit pour faire des jingles sur ses vidéos. Ouais. C'était génial.
C'était génial.
Il
parce
demandait à des gens de faire des jingles voix. Bon, c'était pas du niveau d'Engie, mais justement, c'était le génie.
Mais voilà, donc c'est
amateur, mais avec des accents. Quoi.
Là, c'est de l'ultra néocolonialisme, c'est-à-dire. C'est
oui, ils se foutent de leur gueule en plus.
Du 8e degré, tu te fous de la gueule des gens qui t'aident, c'est incroyable. Ouais.
Tiens, voilà 5 euros, je me suis.
Faire Internet,
faire dire un jingle à un Brésilien pour qu'il ait l'accent, c'est
ouais,
un peu.
C'est du foutage de gueule.
Bon, non, parce que.
Mais Henri fait toujours avec douceur et.
Henri est tellement au 8e degré que.
Mais oui, bien sûr, non, mais c'est Henri Michel, mais voilà, tu peux pas prendre ces forme là sérieusement.
D'accord.
Parce que pour moi, enfin, tu vois, si demain je m'arrête à une station service et j'ai un type qui vient me mettre l'essence dans ma voiture, je vais lui dire mais dégage, je sais le faire tout seul en fait. Moi c'est le genre de truc qui me met ultra mal à l'aise.
En fait c'est aussi le côté plein de petits services partout qui
plein
nous
de petits boulots que tu as par exemple quand tu vas aux États-Unis où tu te demandes justement comment les gens font pour vivre en faisant ça.
Ouais.
Le type qui met tes courses dans un sac en papier craft à la caisse.
C'est vrai que t'as ça en plus
le
de la caissière.
Le pompiste, ouais. Voilà, et t'as ça dans plein de pays et en général tu les as. Alors les États-Unis c'est une chose, mais généralement tu trouves ces jobs là dans des pays du tiers monde en fait.
Mmh. Ouais.
Et donc là j'ai l'impression qu'on tiers mondialise un peu la France, tu vois, ressortir des trucs à faible valeur ajoutée et qu'on me dise pas que les mecs s'épanouissent. Si tu t'épanouis pas en montant les meubles IKEA de Mongoliens qui sont pas capables de lire une putain de notice de 3 pages pour monter cette saloperie de Billy ou de Pax ou de je sais pas quoi qui est pas compliqué, c'est 4 planches, bordel.
Mais t'es pas d'accord pour dire que tous ces sites et ces plateformes offrent une opportunité, même si on dit qu'elle est pas glorieuse, ça reste une opportunité d'appoint.
Bah, franchement, sincèrement, le jour où moi je suis en galère, je préfère devenir flic que faire ce truc-là.
On en reparle quand on aura fait 10 ans chez les flics.
Je vous fais sauter votre amende pour 5 euros.
non, mais sans déconner, moi j'ai vraiment énormément de mal avec ça. Je peux pas payer 5 balles quelqu'un pour qu'il vienne faire le ménage chez moi. J'habite dans un 3 pièces, quoi. Je fais le ménage moi-même.
Oh là là.
Bah ouais.
Da, c'est Tati Daniel, c'est la France qui se lève tôt, hein. C'est la France.
Bah, c'est la France qui respecte, en fait, la valeur travail, en fait. Moi, je donne pas ma thune pour de la merde. Voilà.
Très bien. Et ben, en tout cas, on va vous mettre au défi, chers auditeurs, sur le forum, puisque Daz viendra juger vos idées de start-up de gain petit. Et oui. Donc, on ouvrira une petite section sur notre forum de qualité. Et vous nous proposerez, en tout cas, vos idées de start-up avec des prix, des marges et une dignité minimum. Ou alors, peut-être, vous pouvez aussi insérer dedans des remarques pour dire « Eh non, c'est efficace. » Mais en tout cas, vous passerez par le regard foudroyant de Daz qui vous regardera.
On veut bien des logos gratuits aussi. Si vous en avez en trop.
Studio 404, l'émission de société numérique.
Notre émission du mois de mai touche à sa fin. Vous pouvez ressortir et profiter du soleil. Mais en tout cas, on vous donne plusieurs rendez-vous. Donc, rendez-vous dès aujourd'hui sur notre forum forum.dequalité.com. Daz, il est en ligne?
Mais il est tout à fait en ligne.
Ah.
Forum.dequalité.com.
Et quand l'émission va sortir, il aura craché, j'en suis sûr.
Bah, c'est sûr, c'est certain. C'est certain.
Et rendez-vous sur notre, pour notre soirée de qualité qui sera le mercredi 1er juin. On vous réserve plein de petites surprises et on va bien se marier. Bon, en fait, on va boire, quoi, en fait, c'est ça. Hein.
C'est ça le principe.
Ce sera au Piol, donc le mercredi 1er juin et on vous tiendra au courant, bien sûr, pour tous les détails. On remercie encore, bien sûr, Ghislain, notre réal. Qui a pris la parole ce soir?
Oui!
Big up, Ghislain!
Ah là là là, il mérite plus d'antenne. Et on remercie bien sûr nos amis et partenaires du Tank qui sont vraiment toujours aussi cool pour nous accueillir, nous prêter le matos, nous mettre bien, nous mettre bien. On n'a rien piqué dans le frigo ce soir en plus, donc on a été vraiment sympa. En tout cas, voilà, on fait le grand saut, on lance notre petite boîte qui s'appelle Qualité, Q-U-A-L-I-T-E.
R
et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission ou peut-être avant pour d'autres émissions, qui sait.
Pourquoi pas.
Ah, allez, ciao tout le monde.
Qualité. Bye bye.
Salut.